Bonjour et bienvenue dans Une Génération de Retard, le premier épisode du podcast où l'on s'impose des rattrapages de jeux vidéo à notre rythme, parce qu'il n'y a pas le feu au pad. Salut Thomas.
Salut Thomas. Voilà, comme tu l'as dit, on part sur un premier épisode qui forcément sera un petit peu différent des suivants puisqu'on va prendre quelques minutes pour expliquer le concept et puis la naissance de cette émission. L'idée, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait peut-être quelques trous dans notre culture vidéoludique et on s'est dit qu'une façon originale de combler ces manques, ce serait de réaliser une émission entre nous et puis de s'attribuer des jeux. Je vais te laisser expliquer le concept de ce qu'on va faire.
Bon, en fait, le concept, il est assez simple et je crois que tu l'as déjà à peu près formulé. C'est qu'on a remarqué qu'on avait des trous dans notre culture vidéoludique et on s'est dit qu'il nous fallait peut-être une motivation parfois externe pour nous encourager, nous inciter à faire certains jeux. Donc, en fait, à intervalles réguliers, on va s'attribuer des jeux en sachant que l'autre n'y a pas joué. Donc, on va imposer un rattrapage à l'autre Thomas, pour ensuite discuter et confronter nos points de vue entre le point de vue du vétéran, celui qui a des bonnes raisons d'avoir imposé ce jeu à l'autre, et l'autre avis, c'est-à-dire celui qui va découvrir le jeu. On va confronter ces deux impressions pour voir en fait s'il y avait de bonnes raisons pour ne pas avoir fait ce jeu, ou au contraire, est-ce qu'on est content de l'avoir rattrapé. Et donc, on estime que ce sera intéressant de pouvoir un peu confronter ces deux versants par rapport au même titre.
Oui, exactement, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais on adore parler de jeux vidéo, hein, finalement. Donc, c'était aussi une des motivations qui nous a poussé, pas seulement à faire ça de notre côté, du côté privé, mais aussi d'en faire quelque chose sous la forme d'une émission.
C'est ça, en fait, on s'est dit, on aime bien se charrier sur les jeux qu'on a fait, qu'on n'a pas fait, sur les jeux qu'on a terminés ou pas terminés, les jeux qu'on a aimés ou pas aimés. Et puis, comme je crois que les deux, on sait à peu près parler et qu'on écoute beaucoup aussi de podcasts, qu'on regarde des émissions, qu'on consulte des sites de jeux vidéo, qu'on écrit même parfois, toi comme moi, pour des sites de jeux vidéo personnels ou au contraire collectifs, on s'est dit qu'on avait peut-être quelque chose d'intéressant à dire, un regard tout à coup un peu original, et on a trouvé ce concept qui, à notre connaissance, n'existe pas encore exactement sous cette forme-là dans le paysage culturel et podcastique. Donc on s'est dit qu'on tenait peut-être à quelque chose, un filon pour devenir riche.
Exactement, oui, on va faire breveter le concept. Alors, au niveau de comment va fonctionner l'émission, déjà, en ce qui concerne la régularité, comme tu l'as dit dans l'intro, on va faire ça à notre rythme, c'est-à-dire que nous sommes des personnes qui ont un emploi du temps, parfois chargé, donc on fait ça évidemment, bien sûr, sur notre temps libre, en plus de peut-être certains jeux auxquels on joue pour le plaisir et pas forcément pour l'émission, même si, évidemment, on y joue aussi avec un grand plaisir quand on se les attribue, ça va de soi. Mais on va quand même essayer de partir sur quelque chose d'assez régulier. On va viser, sans trop se stresser, une émission par mois. On verra bien si on arrive à tenir dans les prochains mois. Mais c'est en tout cas ce qu'on vise. On a quelques règles, ou en tout cas quelques grandes lignes qu'on va essayer de suivre dans
les
jeux. Des conventions dans les jeux qu'on va s'attribuer. C'est-à-dire qu'on s'est mis comme limite de ne pas s'attribuer des jeux trop longs. Donc, a priori, pas de Witcher 3, pas de Persona 5 en vue dans cette émission.
Après, il y a peut-être des exceptions avec consentement. C'est-à-dire que si l'autre avait de toute façon prévu de faire un certain jeu, on peut imaginer qu'on accepte, qu'on déroge à cette règle.
On peut imaginer effectivement deux, trois exceptions. Mais dans l'idée, on va quand même rester sur des jeux de l'ordre de la vingtaine, trentaine d'heures maximum. Ça reste des moyennes.
Et 30, c'est moyenne haute.
30, c'est moyenne haute. Après, on sait tous les deux qu'on n'a pas forcément le même rythme de consommation de jeux.
Il y a un des deux Thomas qui a un rushard, donc un mec qui rush ses jeux vidéo. Il y en a un qui prend un peu plus son temps, qui savoure, qui lit les dialogues, qui s'imprègne de l'ambiance. Je ne sais pas du tout lequel est lequel, mais...
Évidemment, on taira l'identité de ces deux Thomas. Mais voilà, donc une fois par mois, c'est un petit peu l'objectif. On ne s'impose pas nécessairement, même si quand même dans l'idéal, on ne s'impose pas de terminer les jeux. Ça dépendra, alors si c'est un jeu à haute valeur scénaristique, on va quand même essayer de faire ça. Si c'est des jeux trop longs qui n'ont pas forcément d'intérêt à être vus jusqu'à la fin, on pourra éventuellement s'autoriser ça. On pourra même imaginer que de temps à autre, on s'attribue des jeux qui ne sont pas vraiment des jeux qu'on puisse finir. Hein. On peut imaginer, je sais pas, des jeux de stratégie, des MMORPG.
J'aimerais bien que tu finisses Stellaris.
Ouais, voilà, par exemple. Donc,
ou Kerbal, et que tu nous en parles ensuite.
Voilà, donc l'idée, c'est que l'émission va être structurée jeu après jeu, c'est-à-dire qu'on va parler du premier jeu, ce sera pas forcément dans un ordre particulier chaque émission, on va parler d'un jeu, on va en discuter, et on passera au suivant, et puis on va s'accorder un petit moment à la fin pour aussi discuter des jeux auxquels on joue à côté de ce petit challenge qu'on s'est imposé tous les deux. Et je propose que pour terminer cette introduction spéciale épisode 1, que peut-être qu'on se présente un petit peu sous notre profil de joueur, puisque voilà, on est dans des tranches d'âge similaires, mais on n'a pas forcément eu le même parcours vidéoludique. Je te propose de commencer. Par quoi tu as fait tes premières armes, voilà, par où tu es passé?
Moi, j'ai commencé à jouer sur de vieux ordinateurs au début des années 90. Et l'expression 90 trahit notre identité régionale, étant donné que nous sommes des Helvètes, ou du moins que nous habitons l'Helvétie. Alors oui, j'ai commencé sur ordinateur à jouer, par exemple, à des vieux Prince of Persia, ce genre de fossile. Et ensuite, j'ai rapidement pris un virage console avec l'arrivée dans la maison de la Super Nintendo, et c'est donc avec cette console là que j'ai vraiment commencé à devenir un joueur. Il y a des jeux qui m'ont marqué d'emblée comme Zelda, Link to the Past, etc. Et ensuite, pendant les années qui ont suivi, mais en fait, j'ai continué à évoluer un peu en parallèle entre console de salon Nintendo. Je n'ai jamais eu de console portable Nintendo, en tout cas dans ma jeunesse, quand c'est pas moi qui m'achetais mes consoles, mais quand on me les offrait à Noël. Et l'ordinateur aussi familial qui était toujours là, disponible au bon vouloir des parents pour jouer. Donc j'ai pas de côté partisan dans les conflits entre supports. Et puis progressivement, j'ai toujours joué, je joue toujours malgré un âge de plus en plus avancé, malgré une vie professionnelle bien chargée. Le jeu vidéo est une véritable passion qui m'occupe beaucoup de temps dans la semaine. Je dirais que je joue à tout, je suis curieux de tout, avec quand même quelques préférences ou en tout cas quelques points, quelques angles morts. Le jeu de sport n'est pas ma plus grande passion.
Tu ne fais pas ton FIFA, Nuel?
Non, je ne fais pas mon FIFA. Ça m'est arrivé de jouer à FIFA, ça m'est même arrivé d'acheter des FIFA pour jouer avec des amis, mais ça fait longtemps que j'ai lâché le truc. En fait, j'étais déjà plus PES à l'époque, mais bref. Donc jeu de sport, bof. Jeu de simulation de course automobile aussi, à moins que ce soit futuriste à la F0, ça j'adore, mais tout ce qui est simulation de course automobile, mobile réaliste contemporaine, ça ne m'intéresse pas vraiment. Voilà, sinon je joue vraiment à énormément de choses, ça va du FPS au RPG, au jeu de stratégie, à la de la coopération, du versus. Mais j'essaye depuis quelques temps de me forcer à finir des jeux solo plutôt que de perdre du temps à des shooters coopératifs en ligne qui sont de véritables vortex.
Je crois que c'est notre lot à tous les deux hein, sur ce plan-là.
Et donc ce podcast-là est en fait la parfaite occasion pour sortir de ses travers. Mais donc oui, j'ai un peu touche à tout, curieux. Et puis actuellement, je joue aussi bien sur PC que sur Switch, que sur 3DS, que sur PlayStation 5, Xbox Series. Donc je ne suis pas sectaire. Je multiplie les plaisirs.
T'es pas sectaire, mais t'es un bon client, en tout cas en termes d'achat.
Alors ça, c'est sûr. Et toi, alors, tu l'as dit, on est à peu près de la même génération, mais est-ce que t'as eu la même évolution? Est-ce que t'as le même profil de joueur?
Alors, pas tout à fait, en tout cas pas tout à fait en ce qui concerne les débuts, c'est-à-dire que j'ai eu un ordinateur familial assez tard, mais par contre les débuts se sont faits à peu près à la même époque, c'est-à-dire fin des années 90 à peu près. J'ai eu la chance de recevoir à Noël évidemment, puisque j'étais dans le même cas que toi, j'ai eu la chance de recevoir successivement une Nintendo 64 et une Game Boy Color. Ce qui a fait que j'ai été vraiment élevé à l'école Nintendo pendant plusieurs années, que ce soit sur console de salon avec notamment voilà, des grands titres comme Super Mario 64, les deux Zelda, GoldenEye, F-Zero X.
Donc c'était ta première console, la 64.
C'était ma première console. J'avais reçu, ou piqué, c'est fort possible, une Game Boy monochrome, mais je ne me souviens plus exactement à quelle date, mais je pense que c'était un petit peu après la Nintendo 64. Toujours est-il que j'ai effectivement plutôt commencé avec la Nintendo 64 et ensuite la Game Boy Color au Noël 99, puisque ça coïncide avec la sortie d'un jeu qui m'est très cher encore à ce jour. Il s'agit de Pokémon version bleue. Et ces consoles Nintendo donc, m'ont accompagné pendant plusieurs années et les générations suivantes aussi, de la GameCube à la Game Boy Advance à la Nintendo DS. Jusqu'à même la Nintendo Switch maintenant, évidemment. Je crois que j'ai eu à peu près toutes les consoles Nintendo sorties entre-temps.
Même la Switch OLED, à ce qui
même
ce
la Switch
dit.
OLED, effectivement. Même une Wii U, hein, ce qui n'est vraiment pas le cas de tout le monde.
Que j'ai rebranché dernièrement.
Et il y a eu un tournant dans ma vie de joueur qui s'est déroulé vers le milieu des années 2000, à la fois parce que l'ordinateur familial commençait à pouvoir faire tourner des jeux graphiquement pour l'époque assez ambitieux comme GTA 3 par exemple. Donc j'ai pu m'essayer à des titres qui n'étaient évidemment pas disponibles sur les consoles de Nintendo. Hein. C'était impensable, et d'ailleurs ça l'est un petit peu toujours d'avoir un jeu, d'avoir un Grand Theft Auto sur console Nintendo. Et un autre tournant du côté console de salon s'est déroulé vers la fin des années 2000, vers la génération Xbox 360 PS3, où j'ai pu avoir successivement ces deux consoles, ce qui a permis d'ouvrir ma librairie de jeux à une quantité de titres qu'on n'aurait pas pu voir uniquement sur les consoles Nintendo, puisque le gap technologique s'est fait ressentir à cette époque-là entre la Wii et puis ses concurrentes, ce qui fait que j'ai pu toucher à des titres aussi plus divers dans leur genre, tels que Bayonetta, Bioshock, ce genre de choses. Et maintenant, je suis un petit peu comme toi, dans le sens où je touche à tout, en tout cas j'essaye. Alors,
on m'a dit que t'achetais plus que tes jeux sur Steam.
J'achète beaucoup de jeux sur Steam, effectivement. Je suis un petit peu moins console maintenant qu'il y a Steam et que les optimisations du PC rendent l'expérience souvent un petit peu plus agréable, les prix aussi. Mais j'essaye de toucher à tout, même si, comme toi, les jeux de sport ne sont pas forcément mon genre favori. Les jeux de voiture, j'aime bien, par contre, que ce soit réaliste ou futuriste.
À tel point qu'un jeu de sport avec des voitures, ça t'aime bien, comme Rocket League.
Oui, alors ça, on n'en parlera pas forcément dans ce podcast, parce que c'est une période sombre de mon passé récent, mais effectivement, j'ai eu joué à Rocket League. Mais voilà, j'essaye de vraiment toucher à beaucoup de choses différentes, même si forcément des genres favoris se dégagent, comme le RPG japonais en particulier, les jeux de plateforme que j'aime beaucoup, que ce soit en 2D ou en 3D. Plus récemment, je me prends beaucoup à jouer à des roguelikes, que ce soit de style Metroidvania ou autre. Et voilà, j'ai ces genres favoris, mais j'essaie de toucher un petit peu à tout. Malheureusement, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, le temps fait souvent défaut. Et cette émission sera l'occasion de toucher à des jeux auxquels j'aurais pas pu forcément jouer, ou en tout cas que j'aurais peut-être laissé de côté au profit d'autres expériences plus immédiates comme Rocket League ou d'autres.
Et les auditeurs l'auront remarqué, nous avons la particularité de partager notre prénom. Alors, on va s'adresser l'un à l'autre, Thomas à Thomas. Parfois, vous aurez peut-être la peine de savoir de qui est en train de parler. Je crois qu'on ne donnera pas plus de précision sur nos noms, mais on s'en tiendra à ça, ce qui rajoute un petit côté cocasse à ce podcast qui se veut éminemment humoristique aussi.
Tout à fait.
Ok, bon merci pour cette présentation. Je remarque en t'écoutant que moi j'ai pratiquement rien dit, je suis resté très secret sur mes goûts et l'évolution de la chronologie de mon profil de joueur. Mais bon, au fil des épisodes, je pense que vous parviendrez à cerner un peu les contours de ma personnalité ludique parce qu'elle est retorse et elle vous réserve plein de surprises. Bref, je crois qu'on a tout dit.
Il me semble que oui.
T'as parlé d'un rythme de podcast mensuel. Je précise encore que on fait ça, tu l'as dit, uniquement sur notre temps libre et pour le plaisir. Donc il n'y a pas de financement participatif, il n'y a pas de collecte de fonds, on ne vous demande pas d'aller verser des sous ici ou là. Et c'est aussi pour ça qu'on se réserve le droit parfois d'être un petit peu moins ponctuel, de peut-être prendre le temps de jouer au jeu qu'on s'est donné. Donc il est possible que vous soyez en manque tout à coup pendant un mois si l'épisode met un peu plus de temps à paraître, mais on va essayer de se tenir à cet objectif ambitieux, mais on l'espère réaliste, de l'épisode mensuel. Voilà, je crois qu'on a tout dit.
On va pouvoir passer au premier jeu. C'est vrai qu'on n'a même pas encore mentionné les jeux dont on allait parler.
On n'a même pas parlé du programme.
On n'a même pas parlé du programme, donc on va le faire tout de suite. Ce premier épisode va être tourné sous le signe du RPG, mais pas du même continent, puisqu'on a d'un côté un jeu japonais. Il s'agit du premier Final Fantasy dans sa version Pixel Remaster que je t'ai attribué pour ce premier épisode. Et de l'autre côté, on a un jeu PC occidental. Il s'agit de Planescape Torment que tu m'as fait la gentillesse de m'attribuer pour ce premier épisode.
Un vrai computer RPG.
Exactement. Et je te propose de commencer par parler de Final Fantasy. Ce sera juste après cette petite mélodie. On va donc parler de Final Fantasy, premier du nom. Alors, on va tricher un petit peu, on va pas parler de la version originale qui est sortie sur Famicom ou NES en 1987 au Japon, puis en 1990 aux États-Unis. On ne s'est quand même pas mis le défi de jouer, enfin je ne t'ai pas mis le défi de jouer à la version originale qui, on aura sûrement l'occasion d'en parler, ne devait pas réserver la même difficulté que ce que tu as vécu avec la version donc Pixel Remaster qui est sorti en 2021 sur PC et sur mobile et qui vient il y a quelque temps d'être annoncé sur console, PS4 et Nintendo Switch si je ne dis pas de bêtises.
Donc elle n'est pas encore sortie.
Elle n'est pas encore sortie, okay. Je crois que c'est prévu avec des précommandes pour une bagatelle de presque 300 balles avec évidemment des collectors vinyles, des choses comme ça.
Ça a gardé sa valeur.
Square Enix ne s'embête jamais avec les tarifs de ses versions collector.
J'ai regardé les prix, là je voulais acquérir Octopath Traveler, je me suis dit depuis le temps il doit avoir un peu baissé, tu parles, c'est encore 60 boules.
Entre Square Enix et Nintendo, on est plutôt mal barré en ce qui concerne les tarifs des jeux.
C'est pour ça que moi je propose des jeux qui sont accessibles, abordables, prolétaires.
C'est tout à fait gentil de ta part. Cela dit, t'as pas fait beaucoup de dépenses, hein, si on veut être complètement transparent, puisque ce jeu t'a été gracieusement fourni par mes soins. Hein, j'avais tout prévu, peut-être la naissance de ce podcast en fait s'est faite il y a un an quand je t'ai offert ce jeu sur Steam.
Tire les ficelles depuis longtemps.
Tout à fait. Et donc, je t'ai attribué ce jeu, donc évidemment premier épisode de la grande saga de RPG de Square Enix, même si c'était pas Square Enix à l'époque, mais on va pas forcément perdre trop de temps.
C'était uniquement Square. Hein.
C'était uniquement Square, évidemment, effectivement, puisque Enix développait alors et développe toujours, le grand rival de Final Fantasy, qui est donc Dragon Quest.
Et précurseur,
effectivement, puisque d'ailleurs le premier Final Fantasy, pour l'info, est contemporain de Dragon Quest 3, qui est l'un des épisodes favoris, en tout cas au Japon, de cette série. Mais voilà, le but, c'est pas forcément de faire un historique complet de la genèse de Final Fantasy. On va pas revenir, plein de gens l'ont fait, et sûrement beaucoup mieux que nous. Je t'ai donc attribué ce jeu, dans sa version donc revue et corrigée, en tout cas assouplie. Et la question que je vais te poser, puisqu'on va systématiquement commencer par ça dans nos discussions, c'est comment se fait-il que tu n'aies jamais joué à Final Fantasy ?
Historiquement, pour des raisons très simples, c'est-à-dire que l'année de sa sortie, je venais à peine de naître. Je n'avais que quelques mois quand le jeu est sorti, puisqu'il est sorti en décembre 1987. Et je n'ai jamais eu de Famicom, donc j'ai simplement eu une Super Nintendo et pas une Nintendo. Donc je n'avais pas le support non plus dans les années qui ont suivi pour y jouer. Et puis par la suite, c'est vrai qu'en fait le JRPG est un peu resté comme ça dans un angle mort pendant pas mal d'années dans mon profil de joueur. Alors oui, j'ai joué à des Zelda, etc. Mais je crois que c'est à peu près les seuls JRPG que j'ai fait pendant mon enfance et pendant mon adolescence. Et puis ensuite, il y a quelques années seulement, 3-4 ans, je me suis dit, tiens, il faut vraiment maintenant que je m'y mette un peu sérieusement à ces JRPG. Soyons sérieux, remontons aux origines. Et comme j'aime bien faire les choses dans l'ordre, non seulement je prends une franchise depuis le premier opus jusqu'à, je l'espère, son dernier, même si là pour Dragon Quest je suis en train de me demander si je vais pas faire des exceptions, mais en plus de ça, on vient de le dire, Dragon Quest est sorti le premier une année avant le premier Final Fantasy, et donc je m'étais dit il faut que j'aille voir l'origine, donc le premier Dragon Quest avant de commencer Final Fantasy. Et c'est vrai que j'avais plein de potes qui jouaient au Final Fantasy quand j'étais jeune, notamment à l'époque de Final Fantasy 7,
évidemment
la grande époque, et moi qui n'avais pas de PlayStation à l'époque, comme la franchise avait déjà basculé et avait quitté le petit artisan Nintendo, je n'avais pas de PlayStation à la maison, donc j'avais pas joué à ces jeux là Mais c'est vrai que j'aurais pu avoir ce réflexe de rétro gamer, de m'y mettre depuis un moment, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Et donc là, l'occasion s'est présentée et j'ai donc joué et terminé Final Fantasy premier du nom.
Alors moi, la raison pour laquelle j'ai souhaité te faire découvrir Final Fantasy, c'est que comme toi, j'ai pas connu cette saga très très tôt finalement. J'étais dans ton cas dans le sens où bon, moi je n'ai même pas eu de Super Nintendo, ce qui fait que j'ai pas pu connaître à leur époque les épisodes sortis sur cette console, à savoir les 4, 5 et 6, qui sont souvent qui reviennent souvent dans les discussions comme étant l'âge d'or de Final Fantasy.
En tout cas le 6. Hein,
en tout cas le 6, ouais. Ouais, le 4 beaucoup aussi, même si après beaucoup de fans occidentaux ont commencé par le 7, hein, c'est une assez grande généralité.
C'est pas pour rien qu'ils ont remaké le 7. Qui Exactement. A un bassin, enfin une cible bien plus large, notamment en Occident. Ouais.
Et comme j'étais dans ton cas aussi en ce qui concerne l'absence de PlayStation à la maison, j'ai pas pu découvrir cette licence avant l'arrivée de certains épisodes sur Game Boy Advance, notamment justement un portage de Final Fantasy 1 et 2. Et depuis, j'ai joué à plusieurs épisodes de Final Fantasy, on va dire une bonne moitié des épisodes numérotés en tout cas. Et c'est une série que j'affectionne particulièrement, spécialement le numéro 14 qui est un MMO, tu le sais sûrement, sur lequel j'ai passé de nombreuses heures.
Il paraît qu'il est extraordinaire. Hein.
C'est extraordinaire et je t'encourage vivement à y jouer, même si...
Il y en a 12 encore, entre celui que je viens de terminer et celui-là.
Mais on y viendra peut-être un jour. Toujours est-il que c'est une série que j'aime particulièrement et... J'ai eu l'occasion de jouer évidemment au premier moi-même, hein, puisque le but c'est qu'on se fait découvrir des jeux auxquels on a soi-même joué. J'ai pu jouer au premier donc sur Game Boy Advance, je l'ai dit, puis dans sa version Pixel Remaster à leur sortie. Je l'ai refait avec grand plaisir. Et l'idée c'est que maintenant que tu l'as terminé toi aussi, on va pouvoir un petit peu confronter, comme on le disait dans l'introduction, le point de vue alors, du vétéran, même si je ne me considère pas forcément comme un vétéran de Final Fantasy 1, en tout cas pas au sens strict, mais voilà, appelons ça comme ça, donc le point de vue du vétéran avec le point de vue du novice, celui qui a les idées toutes fraîches, qui vient de terminer le jeu, qui s'en souvient très très bien, et qui va pouvoir commencer à nous livrer ses premières impressions.
Déjà, tu as mentionné le nom de Pixel Remaster pour cette édition, est-ce que peut-être tu peux expliquer en quoi ça consiste, et puis peut-être pourquoi aussi tu m'as soumis ou tu m'as offert cette version-là plutôt que d'autres, puisqu'il existe des versions retravaillées esthétiquement avec de nouveaux sprites, etc.
Alors effectivement, c'est peu dire que Final Fantasy a eu beaucoup de versions différentes, hein, que ce soit déjà à l'époque, il y avait eu une version sur PlayStation qui était ressortie, la version sur Game Boy Advance, des versions sur PSP, sur mobile, etc. Comme tu l'as dit, parfois avec des styles graphiques un petit peu remaniés, pas forcément toujours de très bon goût, en tout cas c'est peut-être subjectif, mais souvent avec un pixel art très très lissé, pas forcément du plus bel effet.
Et qui devient même presque plus du pixel art en fait.
Non, effectivement, alors ça reste de la 2D hein, évidemment, ouais. Ils n'ont jamais refait le jeu en 3 dimensions, mais effectivement je trouve qu'on perd du charme des
originaux. Il y a plus ce côté pixel assumé comme on le voit même dans des nouveaux jeux qui sortent, je parlais d'Octopath Traveler tout à l'heure.
Effectivement.
Il n'y a plus du tout ça dans certaines versions de Final Fantasy.
Effectivement, ouais. Alors, c'est justement avec cette gamme de Pixel Remaster qui est sortie donc en 2021, entre fin 2021 et début 2022 en fait, puisque Square Enix a donc ressorti les 6 premiers épisodes de sa saga légendaire sur PC donc, et mobile, en tout cas pour l'instant. Et l'idée de ces versions-là, c'est qu'elles conservent, d'où leur nom évidemment, un pixel art, évidemment retravaillé pour les résolutions modernes, pour les écrans d'aujourd'hui, mais donc qui conserve ce style graphique original, et avec aussi, on y reviendra je pense, une réorchestration des musiques originales, tout ça dans un écran qui est au goût du jour, et qui aussi... rééquilibre un petit peu les choses, puisque je le mentionnais un petit peu plus tôt, la version Famicom du premier Final Fantasy est connue, comme à peu près tous les JRPG de l'époque, pour être difficile, pour demander beaucoup de grind, pour être assez punitive, assez obscure dans les objectifs qu'on doit réaliser, les quêtes qu'on doit suivre. Et donc cette version-là était selon moi l'occasion parfaite pour s'initier à cette série. Et donc maintenant que tu l'as fini... On est prêt à
verdict.
Entendre tes impressions.
C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. C'est un jeu que je placerai pas forcément au panthéon des RPG que j'ai terminé et que j'ai fait actuellement, même si je suis loin d'en avoir fait une quantité astronomique. Mais C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé parce que je le trouve, alors je sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est dû justement au remaster ou au jeu d'origine, mais je l'ai trouvé extrêmement fluide, extrêmement clair dans son déroulement, extrêmement simple en fait, dans les objectifs à remplir, les lieux auxquels il faut se rendre, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'en fait la map du premier Final Fantasy, elle est quand même assez grande. Elle se répartit sur 3 continents différents. C'est presque un open world. Hein. On pourrait parler d'ancêtre de l'open world parce qu'on va relativement assez vite là où on veut, même si il y a une petite composante Metroidvania au sens où il y a des endroits qui ne seront accessibles que lorsqu'on aura débloqué tel ou tel élément ou que tel ou tel pont sera reconstruit.
Effectivement, le jeu te cloisonne au début un petit peu. Hein. Tu n'as accès qu'à un petit bout de continent, ensuite tu répares un pont, tu as accès à un petit peu plus, puis tu obtiens un bateau et ainsi de suite. Donc pour ça, effectivement, le jeu t'accompagne dans tes premières heures, dans le sens où tu n'as pas 10 000 lieux à visiter, donc tes options sont assez limitées.
C'est ça.
Ça facilite un petit peu la progression.
Ça facilite énormément la progression parce qu'en fait, tu n'es pas confronté d'emblée à 40 endroits auxquels tu n'as pas accès. Et ce qui fait que dans certains jeux, notamment les Metroidvania, quand tu débloques un objet ou une compétence qui te permet d'aller dans un lieu inédit jusqu'alors, bah tu dois te dire: ah, mais là, c'était quel endroit qui était bloqué à cause de ça? Est-ce que c'est celui-ci? Et puis tu te retapes toute la map pour te souvenir de où tu ne pouvais pas aller auparavant. Là, c'est très simple. Le pont, il est détruit. Le pont, il est construit. Tu peux pas aller en bateau. Ah, tout à coup, tu peux aller en bateau. Et tu sais exactement où tu dois aller. Pour faire la comparaison avec Dragon Quest, puisque je connais mieux la saga Dragon Quest, en tout cas les débuts de la saga Dragon Quest, j'ai trouvé que dans la narration, c'était aussi beaucoup plus limpide, moins cryptique, moins vague dans les objectifs à remplir, ce qui fait que j'avais l'impression d'être guidé tout au long du jeu, qui est assez court en plus, hein. J'ai terminé en 12 heures, alors peut-être qu'à l'époque, il y a 35 ans, le jeu était beaucoup plus long, parce que pour des raisons de difficulté ou même de narration, ça serait intéressant de savoir dans quelle mesure la narration a évolué. Mais donc oui, j'ai trouvé ça hyper confortable en fait, et ça fait que ce jeu, pour moi, maintenant, à l'heure actuelle, ça reste un très bon jeu pour commencer le JRPG. C'est une très bonne première expérience parce que tout de suite, tu es familiarisé à un système de combat qui a l'immense avantage sur le concurrent direct de directement être réparti par classe, c'est-à-dire que tu vas choisir la classe de tes 4 personnages d'emblée avec des profils différents. Tu as le guerrier, le voleur, le magicien, etc. Magicien blanc, magicien noir. Donc, tu as tout de suite une variété de skills différentes en fonction des personnages que tu as choisis. En plus de ça, ces classes vont pouvoir évoluer au fil du jeu.
Évoluer, mais pas changer. Hein. Par contre, on décide, comme tu l'as dit,
des
4 classes dès le... Voilà, c'est le premier écran qui nous accueille quand on clique sur nouvelle partie. Et ça ne changera plus, ça évoluera, mais sans aucun choix possible. Hein. On va upgrader.
C'est ça, exactement.
Ouais.
C'est une sorte de gros palier qui est tout à coup franchi avec des pouvoirs bien plus puissants. Mais donc oui, j'avais vraiment l'impression d'être dans des chaussons. En plus de ça, un immense avantage pour moi de Final Fantasy par rapport à Dragon Quest, c'est que je trouve que la qualité des musiques de Nobuo ou Uematsu sont nettement supérieures, ce qui fait qu'en fait j'ai beaucoup moins de problèmes avec le grind, j'ai beaucoup moins de problèmes avec les combats aléatoires, parce que je sais qu'à chaque fois je vais retrouver une musique que je vais chantonner en même temps que je combats, donc ça rend l'expérience extrêmement agréable. Et puis t'as énormément de combats aléatoires qui se déclenchent au fil de tes tribulations sur les 3 continents, mais ça n'a à aucun moment été un problème, alors que dans Dragon Quest, parfois je grince quand même des dents, et je pense que la musique est en grande partie responsable de cette différence.
Ouais, et ce premier épisode, mine de rien, contient beaucoup de thèmes très célèbres de la saga qui vont être repris après dans d'autres épisodes. Le 14, justement, en est un bon exemple, puisqu'il reprend beaucoup, beaucoup de thèmes.
C'est vrai que j'ai menti, en fait. J'ai dit que j'avais jamais fait de Final Fantasy, mais c'est faux. Le premier Final Fantasy que j'ai fait, et le seul, en fait, enfin, j'en ai fait 2, mais c'est le même jeu, c'est les Seattle Rhythm. Je sais pas comment ça se prononce, c'est imprononçable.
Ça doit être à peu près comme ça.
Mais les jeux musicaux sur 3DS, des jeux de rythme, dans lesquels tu joues sur les morceaux de toute la saga Final Fantasy. Donc, en fait, je connaissais déjà les musiques de Final Fantasy 1. Parce que mon obsession pour la chronologie fait que même dans Seattle Rhythm, je joue les morceaux dans l'ordre chronologique de la sortie des jeux en question. Mais bref, j'ai retrouvé ces musiques et j'étais conquis d'avance parce que je savais que j'adorais vraiment la bande originale de Final Fantasy. Maintenant, en termes de narration, j'ai trouvé ça presque trop simple. par rapport à Dragon Quest, qui a osé plus de complexité, je trouve, d'emblée. Il y a un twist scénaristique, je crois qu'on ose le révéler, parce que bon, c'est un
ouais,
jeu
je pense
est...
que voilà, c'est un jeu, comme tu l'as dit, qui est court, qui commence à dater maintenant,
et puis le
twist,
en fait.
Et puis
enfin,
ouais, voilà,
fous.
C'est vrai qu'on s'en fout un petit peu, et puis bon, c'est pas le voilà, ça va pas gagner la palme d'or du scénario non,
non
plus. Non,
mais il y a cette idée intéressante. Et qui est, ben voilà, qui a une idée de science-fiction classique, en fait, du paradoxe temporel, étant donné que le méchant meurt et est renvoyé dans le passé pour devenir plus fort. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Et en fait, c'est très simple, mais ça préfigure aussi un artifice scénaristique qu'on va retrouver dans énormément de JRPG, aujourd'hui encore, qui est l'espèce de twist au milieu, deux tiers du jeu, qui te fait voir les choses autrement. Bon, Chrono Trigger a largement plus capitalisé là-dessus, mais même dans des Xenoblade et autres, apparemment, t'as toujours ce genre d'organisation avec un pivot tout à coup narratif au milieu. Mais non, moi, écoute, c'était une expérience que j'ai trouvée vraiment... que j'ai trouvé hyper agréable, peut-être un peu simple aussi dans les combats. Je roulais passablement sur le jeu.
Alors ça, effectivement... Malheureusement, j'ai pas joué moi-même à la version Famicom. J'ai connu la version Game Boy Advance qui déjà avait la réputation d'avoir été facilitée par rapport à l'original. Mais c'est vrai que là, sur ce Pixel Remaster, on n'est jamais vraiment confronté à un mur de difficulté, même contre les boss. À moins de rusher, de connaître le jeu et d'aller vraiment le tête baissée, droit jusqu'à chaque objectif. Nos personnages sont normalement de niveau suffisant pour pouvoir battre à peu près n'importe quel ennemi.
La progression se fait très naturellement. Si t'es arrivé jusque là, c'est que t'es censé être capable de vaincre l'ennemi, le boss qui se trouve à cet endroit là c'est assez fluide.
Ouais. Et le fait d'avoir une équipe composée justement de 4 personnages qui sont potentiellement de classes différentes, puisque pas nécessairement, hein, quand on crée nos personnages au début, rien n'empêche de choisir 4 fois la même classe, même si c'est pas forcément recommandé, puisqu'on privilégiera toujours une équipe équilibrée
complémentaire,
avec un magicien offensif, un magicien soigneur,
voilà,
un tank, ce genre de choses. Mais effectivement, la progression se fait sans trop de soucis. On n'a pas besoin de grinder pour des niveaux. On a rarement besoin de grinder pour de l'argent pour s'acheter des meilleurs équipements. Là où justement, tu en parlais, un Dragon Quest, en tout cas premier du nom, dans lequel tu ne contrôles qu'un seul personnage, devient un jeu où si tu ne one-shot pas les ennemis, tu sais que tu n'es pas dans la bonne zone, tu ne peux pas passer. Donc là, ça devient un jeu où on va devoir grinder jusqu'à faire le jeu presque en mode combat automatique. Là, on est déjà sur quelque chose quand même d'à peine plus complet, où on peut donner des ordres différents à ses personnages, que ce soit de l'attaque, de la magie, des buffs, des debuffs contre les ennemis, etc. Donc on a déjà plus de possibilités, et l'équilibrage de cette version Pixel Remaster a probablement été très très adouci pour faire en sorte que n'importe qui puisse en voir le bout, et justement ça en fait, comme tu le disais tout à l'heure,
une bonne porte d'entrée,
et c'est aussi, je pense, le but de ces versions Pixel Remaster, hein, au-delà de se faire de l'argent, évidemment, puisque on connaît Square Enix. Mais effectivement, c'est une bonne initiative. En tout cas, moi, je suis assez content d'avoir vu sortir cette gamme Pixel Remaster, et c'était d'ailleurs assez étonnant qu'il ne soit pas annoncé sur console dès le début. Là, on peut facilement imaginer que les versions PS4 et Switch vont se vendre comme des petits pains. Parce que, mine de rien, ce premier épisode, il est assez souvent oublié. Hein. Les 3 premiers, globalement, sont assez souvent oubliés. Ils étaient sur NES à l'époque. Le 3, en particulier, n'a pas fait l'objet de ressorties avant assez tard, en tout cas en Occident. Donc c'est des jeux qui sont assez souvent oubliés quand les gens parlent de leur Final Fantasy préféré.
Contrairement au Dragon Quest,
effectivement. Alors, comme tu le disais, je pense que rares sont les gens qui vont dire que Final Fantasy 1 est leur Final Fantasy préféré, ou même leur JRPG préféré, parce qu'il reste relativement simpliste. Mais je trouve qu'il y a vraiment des bonnes choses à garder, que ce soit en termes de musique, comme tu l'as dit, en termes de base de gameplay. Hein, tu connais pas forcément les autres épisodes de la saga, mais...
Alors justement, j'allais te demander dans quelle mesure est-ce qu'on retrouvait déjà l'essence de la saga dans ce premier Final Fantasy ou pas ?
Il y a beaucoup de choses. Hein, le système de combat en premier lieu, puisque on avait déjà donc une équipe composée de plusieurs personnages avec des classes bien distinctes et donc des équipements et des magies et des capacités bien distinctes, chose qu'on va retrouver tout au long de la saga. Avec exception, parce que justement, contrairement à la série des Dragon Quest, les Final Fantasy ont comme originalité de tenter des nouvelles choses à peu près à chaque épisode, hein, pas non plus tout le temps.
Tu me donnerais presque une excuse pour les faire dans le désordre.
Presque, mais justement, on gagne un petit peu avec l'alternance, notamment sur les 6 premiers. Si tu as l'occasion, je ne sais pas, de continuer la saga Pixel Remaster, je t'ai offert que le premier, hein, il faut bien le reconnaître, j'ai pas poussé
le vice.
Mais ça fait longtemps, effectivement, donc peut-être que je vais passer à la caisse pour t'offrir le 2. Et justement, sur les 6 premiers, on a une alternance assez intéressante dans le sens où les épisodes impairs, donc 1, 3 et 5, vont beaucoup miser sur le système de job, avec, à partir du 3, des jobs qu'on peut changer à la volée, cette fois. Et les
donc
épisodes
2, 4...
Tout
ce que tu
2,
dis, ce
4,
que t'appelles job, c'est les classes.
Les classes, exactement. Mmh. Oui, c'est vrai que la saga Final Fantasy appelle ça des jobs. Et les épisodes pairs, donc les 2, 4 et 6, vont plutôt miser sur quelque chose de beaucoup plus scénarisé, avec des personnages cette fois moins anonymes, moins avatars finalement, avec des prénoms, avec des personnalités, des dialogues, etc. Mais où, sur le gameplay, on va avoir un petit peu moins de liberté, en tout cas en ce qui concerne les classes que l'on va choisir. Donc on a vraiment, effectivement, quelque chose qui va aller avec beaucoup de différences d'un épisode à l'autre. Et c'est ça qui, pour moi, fait aussi une des forces de Final Fantasy par rapport à Dragon Quest. Là où
Dragon
Quest joue le
classicisme. Je les confonds les quatre. Je les ai alignés en l'espace de quelques mois, les quatre premiers, et je ne peux plus te dire lequel raconte quoi. Et dans le 4, okay, il y a cette spécificité avec les personnages différents, mais c'est à peu près tout. Je les confonds tous. Ouais.
Et à la fois, c'est pas forcément un point faible non plus, parce qu'on retrouve un petit peu cet aspect confortable, on sait dans quoi on se lance, c'est le cas avec beaucoup de séries de JRPG qui se cantonnent un petit peu à leurs bonnes vieilles habitudes. Final Fantasy tente des choses, parfois avec succès, parfois moins, hein, ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard, mais tous les épisodes ne font pas l'unanimité, loin de là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ce premier épisode, effectivement, contient déjà beaucoup des bases, il contient beaucoup de thèmes musicaux assez connus, que ce soit le thème de victoire de combat ou la musique de l'écran titre, et puis des thèmes qu'on retrouvera ponctuellement dans d'autres épisodes. Donc, d'accord, ce sera peut-être pas le meilleur Final Fantasy, hein, il y a des épisodes qui font beaucoup de choses bien mieux, mais il reste assez sympathique à mon goût pour valoir la peine de s'y essayer.
Et tu disais que le jeu avait été adouci, j'ai entendu que dans la première version de Final Fantasy, quand tu donnais l'ordre à un personnage de t'attaquer tel ou tel monstre, si ce monstre entre-temps mourait sous les coups d'un autre personnage, ben en fait le personnage à qui tu avais donné cet ordre ne faisait plus rien, alors qu'ici le coup se répercute sur une cible suivante.
Sur l'ennemi d'après, oui.
Voilà, il n'y a pas de coup dans le vide, ce qui est hyper agréable, parce que j'imagine bien que ça doit être rageant de voir une série de ces coups tapés à côté, parce que tout simplement, entre-temps, l'ennemi a déjà été tué. Donc c'est vrai qu'il est très confortable.
Oui, je pense que dans la version originale, ça demandait vraiment de beaucoup plus prévoir, de connaître peut-être à peu près le nombre de points de vie des ennemis pour essayer de ne pas faire d'overkill et de perdre bêtement un tour. Mmh. Ça avait déjà été réglé de mémoire dans la version Game Boy Advance, qui elle changeait 2-3 choses au niveau du système. Typiquement, je voulais un petit peu savoir ce que tu avais pensé du système de magie dans Final Fantasy, parce qu'il faut peut-être le préciser, parce que c'est pas le cas dans tous les JRPG. Dans la plupart des jeux, quand on parle de magie, on s'attend à ce que notre personnage qui est un magicien va apprendre un nouveau sort au niveau 5, va apprendre un nouveau sort au niveau 8, etc. Ici, c'est pas le cas.
Tu dois choisir les sorts que tu achètes en boutique, et tu ne peux pas avoir l'ensemble des sorts du niveau auquel tu as accès. Donc il y a des choix à faire.
Il y a des choix à faire, et donc, comme tu l'as dit, les sorts sont répartis par niveau, et ta réserve d'utilisation de ces magies est aussi découpée par niveau. Ça, c'était présent dans la version originale, et c'est quelque chose qui, pour l'anecdote, n'était pas présent dans la version Game Boy Advance, où là, ils étaient revenus à un système un petit peu plus classique de points de magie, okay. Où tu avais un pool commun de
et
points de magie,
à tous les sorts.
Et tu pouvais, si tu le voulais, utiliser tous ces points de magie uniquement pour les sorts de niveau 7, de niveau 8, de niveau 9.
Qui en dépensaient quand même plus.
Qui en dépensaient quand même plus. Mais là, effectivement, on se retrouve avec quelque chose de très compartimenté, ce qui n'est pas forcément un avantage ou un inconvénient, mais ça demande de réfléchir à l'utilisation de tel ou tel sort, surtout quand deux sorts très utiles, un sort de soin et un sort d'attaque par exemple, se retrouvent sur
le même niveau. Ouais.
Exactement, là on est quand même un petit peu obligé de réfléchir à ce qu'on fait, même si encore une fois le jeu n'est de toute façon pas infaisable et donc on peut s'en sortir sans trop se prendre la tête. Ouais.
Non, écoute, moi j'ai trouvé ce système intéressant, très instinctif en fait, même si j'avais jamais été confronté à un tel système. C'est marrant parce que t'as des sorts qui deviennent de plus en plus puissants et t'as plusieurs itérations du même sort qui va une fois faire un peu de dégâts, ensuite plus de dégâts, mais toujours sur les mêmes cibles, et tu les retrouves dans des niveaux différents. Donc quand t'as grillé tous tes points de magie dans un certain niveau, bah, tu te rabats sur le même sort, mais de qualité inférieure, enfin de puissance inférieure. Et non, non, je trouvais ça pas mal. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était justement ce choix au moment de dépenser tes thunes en boutique qui oriente en fait un peu quand même ta stratégie pendant les combats. Est-ce que lui, tu vas vraiment en faire un healer ou est-ce que tu lui mets quand même un gros sort d'attaque de ce niveau-là?
Ouais, ça reste léger hein, parce qu'il me semble, alors peut-être que je dis une bêtise, je crois qu'il y a systématiquement 4 sorts de chaque niveau et chaque personnage, chaque mage ne peut avoir que 3
c'est
sorts
ça,
d'un
exactement.
Niveau. Donc
il y en a
on
un
en laisse
tu dois
un
renoncer.
De côté. Ouais. Souvent, le choix est en plus assez évident. Ouais.
Il y a un buff
qui augmente l'esquive. Ce n'est pas forcément le premier
exactement.
Choix par rapport à quelque chose qui fait des dégâts de zone ou ce
c'est
genre
ça.
De choses.
Mais finalement, c'est une astuce toute simple qui clarifie quand même énormément et qui simplifie aussi l'expérience de joueur. C'est-à-dire que tu ne te retrouves pas perdu avec une kyrielle de sorts où tu ne sais plus quoi choisir. Maintenant, là, en fait, le jeu te les trie pour toi. Et j'ai trouvé ça particulièrement agréable. Mais en fait, c'est un peu général sur toutes les classes auxquelles on a accès. Là, je l'ai fait donc avec 4 premières classes et je pense que j'ai opté pour la composition la plus basique, la plus traditionnelle. Mais
c'est-à-dire deux guerriers et deux mages, j'imagine, enfin deux
ouais,
combattants au corps à corps et
exactement.
Deux magiciens.
Ouais, c'est ça, un mage noir, un mage blanc, un voleur, un guerrier, et donc un gros DPS et un tank au corps à corps. Et ce qui m'était jamais arrivé avec les Dragon Quest, c'est que en fait, ça m'a presque donné envie de tenter d'autres compositions, de refaire le jeu, de varier, parce que t'as cette souplesse-là qui, quand même, en combat, te fait vivre des expériences assez différentes. J'imagine, si tout à coup, tu te retrouves avec 4 mages, c'est totalement différent. Et je trouve ça assez intéressant de tester le jeu aussi dans ces limites-là, ce que je n'ai pas encore fait. Je crois que j'ai vu que tu avais lancé une partie avec 4 guerriers.
4 guerriers, oui, effectivement. Et comme tu le dis, le jeu est en plus suffisamment court et globalement pas très difficile pour dire qu'on peut se permettre de relancer une petite run comme ça pour voir
c'est
comment ça.
Ça
se passe. Au bout d'un moment, on tourne un petit peu en rond parce que ça reste un jeu assez direct et on enchaîne les donjons sans trop de variations. Il n'y a pas vraiment de choix possible dans l'ordre des zones. Mais effectivement, ça permet de varier un petit peu les plaisirs et de tenter des nouvelles choses, de se faire des petits challenges pour se faire plaisir.
C'est ça. Et est-ce que tu sais, peut-être, je ne sais pas si tu as encore beaucoup de choses à dire sur le jeu, mais je vois que le temps file. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'il s'appelle Final Fantasy ?
Oui, alors justement, est-ce qu'on voulait vraiment refaire la genèse de...
Non, mais en tout cas, juste cette anecdote-là que je trouve assez chouette parce que moi-même, j'ignorais et c'est en me documentant là pour ce podcast que j'ai découvert la raison de ce nom qui est devenu mythique et en fait complètement décorrélé de sa signification première.
Ouais, donc qui est censé représenter... Alors apparemment, il semblerait que c'est quand même de plus en plus romancé hein, selon les sources qu'on lit, mais effectivement, ce nom ferait référence au fait que Squaresoft était un petit peu dans la dèche à l'époque et donc à essayer de sortir un dernier jeu pour essayer de sauver les meubles. Donc
le
Final Fantasy, exactement.
Et de la fantasy.
Voilà, ça s'en suivit, comme on le sait maintenant, tout le succès de cette franchise. Il me reste une dernière question
vas-y.
Capitale qui a fait couler beaucoup d'encre dans les sites spécialisés de jeux vidéo. Qu'as-tu pensé de la police d'écriture présente dans le jeu?
Elle est un peu dégueu. Elle est un peu dégueu, elle est ultra lisse en fait. Et il y a un contraste qui est pas des plus heureux entre le pixel art du jeu, des personnages, du décor, etc. Et puis tout à coup, ces bulles de dialogue avec une police. Alors non seulement la police en elle-même n'est pas très belle, mais en plus de ça, c'est lisse.
Elle n'est pas pixelisée.
Ouais, elle
n'est
pas
c'est
pixelisée,
ça le problème.
Elle est vectorisée, voilà, je cherchais le terme. Et ça ne matche pas, ça ne correspond pas. Et ça ne m'a pas dérangé au point...
Je trouve qu'on en a fait beaucoup, hein, globalement. Enfin, il y a eu beaucoup, dans les publications qu'on peut lire, toi et moi, il y a eu beaucoup de débats
là-dessus.
De débats en tout cas, de critiques là-dessus. Effectivement, ça fait un petit peu tâche, c'est pas forcément très raccord avec le reste de l'identité visuelle. Ça peut se patcher si vous jouez sur PC, donc pas vraiment de...
Et tu me le dis maintenant.
Écoute, je voulais te laisser l'expérience
la plus pure,
la plus originale possible.
Ça. Non, mais ça a pas du tout gâché l'expérience, mais c'est vrai qu'il y a un contraste qui est inexplicable. Ouais. Dommage.
Exactement.
Bon, je crois que j'aurais tout dit sur Final Fantasy.
Je crois qu'on a fait le tour, effectivement.
Et donc, si vous ne l'avez jamais fait et que vous n'avez pas un Thomas pour vous imposer ce rattrapage, je vous encourage à le faire.
On recommande chaudement. Ça se trouve à 12-13 balles, je crois, sur Steam.
Je ne sais pas, on me l'a offert.
Et à des prix beaucoup plus élevés. Beaucoup plus élevés sur console, puisqu'ils ne vont sortir qu'en collection, les 6 premiers. Donc, on ne pourra pas en boîte, oui. Alors, en dématérialisé aussi, mais je ne suis pas sûr. Alors là, je fais vraiment une hypothèse, mais je ne crois pas qu'on pourra acheter au détail. Ce sera forcément, il me semble, la collection des 6.
Donc, est-ce que tu vas craquer pour la collection ?
Je ne vais pas craquer pour la collection, étant donné que je possède déjà les 6 sur Steam. Et je possède les 6.
Mais je sais que tu aimes bien les jeux que tu apprécies particulièrement. Tu aimes bien les avoir matériellement pour la collecte.
Mais je les ai déjà en version Famicom et Super Famicom. Ah, donc, le problème ne se pose pas.
Okay, tu es un puriste.
Je propose qu'on passe au deuxième jeu, qui sera Planescape Torment, ce sera juste après ça.
Don't let it end like this. Donc, pour le deuxième jeu et celui que je t'ai soumis, il s'agit, comme tu l'as dit, de Planescape Torment, un jeu qui est sorti en décembre, lui aussi, mais 1999, développé par Black Isle Studios, qui est une division d'Interplay. C'est leur troisième jeu développé après Fallout, Fallout en 97, Fallout 2 en 98, et puis ensuite ils ont développé les Icewind Dale, aussi d'autres gros, grands, célèbres CRPG. Donc c'est un jeu surtout scénarisé et puis conduit par Chris Avellone, qui est quelqu'un à qui on doit quand même de gros gros noms, en plus de Fallout 2, Baldur's Gate, il a participé aussi à KOTOR 2, si je dis pas de bêtises, à Fallout New Vegas. Il a aussi bossé sur FTL, Wasteland 2, Divinity Original Sin 2, donc c'est un gros nom du RPG, même s'il y a quelques exceptions qui ne sont pas forcément des RPG, des CRPG dans la liste. C'est vraiment un jeu qui s'inscrit dans la lignée classique du CRPG qui tournait sur l'Infinity Engine, donc le moteur de BioWare qui est hyper célèbre pour les premiers Baldur's Gate. Je ne sais pas sur quel moteur va tourner le 3, mais peu importe. Ceux qui ont grandi avec le jeu de rôle sur ordinateur savent très bien à quoi ressemble cette 2D isométrique, qui est vraiment typique de ces adaptations de l'univers de jeux de rôle de Donjons et Dragons, puisque Planescape Torment, c'est en fait une adaptation d'un des univers qui était proposé par TSR à l'époque dans Donjons et Dragons, qui est une des propositions à des univers les plus fous, les plus psychédéliques, ou les plus complexes, on pourrait dire aussi, de tout Donjons et Dragons.
Et qui n'a rien à voir avec les classiques Royaumes Oubliés, qui sont le cadre des Baldur's Gate, notamment.
Voilà. Les Royaumes Oubliés, c'est vraiment le cadre dans lequel s'ancrent les Baldur's Gate, et c'est de la fantasy, de la medieval fantasy, de ce qu'il y a de plus classique, hein, qui ressemble énormément à ce que Tolkien a pu écrire. Avec Planescape Torment, on est vraiment dans un univers différent, mais je pense qu'on aura l'occasion d'évoquer un peu ses spécificités. Donc, j'ai décidé de soumettre ce jeu qui était sorti maintenant il y a 23 ans et qui est ressorti dans une édition Enhanced, comme disent les francophones, en 2017. Sur PC, iOS, Android, il est sorti aussi en 2019 sur console Switch, PS4 et Xbox One. Et donc c'est cette version-là, je crois, que tu as faite, que je ne t'ai pas offerte.
Non, je la possédais déjà.
Et tu la possédais déjà, et justement, ça m'amène à la question qui va devenir traditionnelle, puisque tu le possédais, pourquoi est-ce que tu ne l'as jamais fait, mon bon Thomas ?
Alors, il faut savoir déjà que je ne l'ai pas fait à l'époque de sa sortie, puisque comme je l'ai un petit peu évoqué dans l'introduction, je n'avais pas de PC, ou en tout cas j'ai eu un PC à peu près dans ces eaux-là, mais j'étais assez jeune à l'époque, ce qui fait que les quelques jeux que je faisais sur PC, c'était des jeux qui m'intéressaient à l'époque, qui étaient des jeux un petit peu plus d'action, et je pense
des jeux
pas
de
que
ton âge.
Des jeux de mon âge, hein, j'étais à 3, ce genre de choses, ce qui fait que je pense pas, j'ai pas le souvenir en tout cas d'avoir entendu parler de Planescape Torment à l'époque de sa sortie, et je doute que j'aurais été intéressé en voyant ça sur les étagères d'un Micromania par exemple, parce que tout simplement c'était pas forcément le genre de jeu auquel je pouvais m'adonner à l'époque. Et effectivement, entre-temps, alors j'aurais bien du mal à dire quand, mais j'ai fait l'acquisition de cette Enhanced Edition de Planescape Torment sur Steam. Donc tu as dit qu'elle était sortie en 2017, donc
exactement.
Voilà, j'ai dû la prendre quelque part entre 2017 et maintenant. Et je n'y ai jamais joué tout simplement parce que j'achète beaucoup de jeux sur Steam à bas prix, dans des bundles et ce genre de choses. Et j'oublie parfois que je possède certains jeux, ce qui fait que quand tu m'as attribué Planescape Torment, déjà j'ai été très content parce que c'était quand même un jeu dont je connaissais l'existence entre temps, dont j'avais appris l'existence, je voyais plus ou moins de quoi il retournait. Et j'avais un petit peu oublié, il faut bien le dire, le fait que je possédais déjà le jeu, donc je me suis empressé d'aller voir sur Steam et effectivement j'avais cette Enhanced Edition. Et voilà, c'était finalement tout simplement un oubli de ma part, et oubli qui a été réparé puisque comme toi j'ai terminé le jeu depuis.
Ok, et alors pourquoi est-ce que je t'ai soumis ce jeu-là, moi? Pour quelle raison? C'est vraiment un jeu qui compte énormément dans mon histoire de joueur. C'est un jeu auquel j'ai joué à sa sortie, parce que j'étais déjà amateur de jeux de rôle, parce que je jouais moi-même à Donjons et Dragons, et mon frère, à l'époque de la sortie du jeu de rôle Planescape, l'avait acheté. Je crois même que c'est le premier jeu de rôle papier dont on avait fait l'acquisition. Et sans même y jouer, parce qu'en fait on s'était rendu compte que Planescape était trop fucked up pour commencer une campagne de Donjons et Dragons dans cet univers là et on s'était rabattu sur les royaumes oubliés quelques temps plus tard. Et donc c'est un jeu que j'avais fait et que j'avais véritablement adoré. C'est même presque un des premiers jeux que j'ai terminé, je crois, sur ordinateur, et qui m'a marqué, mais vraiment de manière indélébile. Je ne l'ai plus jamais fait depuis, donc ça fait 23 ans que je n'ai plus joué à Planescape, même si là je l'ai relancé juste pour me rafraîchir un peu la mémoire pour ce podcast. Et pourtant, contrairement à énormément de jeux auxquels je jouais à l'époque, j'en garde un souvenir mais hyper précis. Il y a vraiment des images qui me sont restées en mémoire et qui sont gravées pour toujours dans ma rétine. Il y a des musiques comme ça qui me reviennent, des plans de cinématiques, des aspects scénaristiques, parce qu'en fait, c'est un jeu qui est absolument, selon moi, fascinant, obsédant. C'est un jeu de rôle qui se distingue déjà de beaucoup de CRPG au sens où il met plutôt l'accent sur les dialogues. En tout cas, c'est ce qu'ils essayaient de faire. Il y a une quantité, je crois que c'est 80 000 lignes de dialogue pour l'ensemble du jeu. Donc c'est un jeu qui est vraiment porté sur la discussion, porté sur le dialogue, sur la psychologie des personnages et puis sur des concepts, même si ça me dépassait forcément à l'époque. Et il y a énormément de concepts philosophiques qui sont brassés dans le jeu. Et maintenant, en y revenant a posteriori, j'y vois une certaine forme de logique dans ce coup de cœur quand j'étais encore même pas adolescent, j'étais encore enfant, parce que ça préfigure déjà beaucoup de mes goûts, que ce soit goût vidéoludique, cinématographique, ou même culturel, parce que voilà, j'aime bien la philosophie, j'aime bien ce genre de cinéma là aussi, etc. Et donc en fait, a posteriori, je me dis oui, en fait, ça a du sens, ça a totalement du sens d'avoir adoré ce jeu là à l'époque. Mais peut-être que je pitche juste le jeu, juste comme ça, pour vous donner une idée. Il s'agit donc de l'histoire d'un anonyme qui s'appelle le Sans Nom, The Nameless One, qui se réveille un jour à la morgue. Et il est immédiatement approché par un crâne flottant qui s'appelle Mortet, qui va nous suivre, qui va devenir un de nos compagnons. On peut avoir jusqu'à 7 compagnons dans le jeu. Et puis ce crâne flottant lit une série de tatouages qu'on a écrits sur le dos de notre personnage, donc de cet homme anonyme, et qui est couvert de cicatrices. Et il y a quelques instructions sur son dos qui sont tatouées, notamment un nom qui apparaît, le nom de Farod, qu'on va devoir retrouver. On ne sait pas qui c'est, on va devoir partir à sa recherche. On comprend aussi qu'on a perdu notre journal, qu'on va devoir chercher dans les bidonvilles d'une grande cité qui s'appelle Sigil, et qu'on va devoir arpenter, en plus des quelques plans un peu bizarres qui composent l'univers de Planescape Torment. Donc voilà, on est embarqué dans cette histoire avec très très peu d'éléments, en fait, très très peu de clés. On va devoir remonter un peu le fil de notre personnage, de sa personnalité, puisqu'on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas pourquoi il se réveille alors qu'il était mort, et on ne sait pas pourquoi quand on meurt, on se réveille toujours. Apparemment, c'est un immortel, mais il va essayer de remonter le fil de son histoire, et nous, avec lui. Donc, je vais te donner la parole pour te demander ce que tu as pensé de ce chef-d'œuvre de l'histoire du RPG et du jeu vidéo tout court.
Alors, tu me mets un petit peu la pression, mais je vais essayer d'être aussi enthousiaste que toi avec ta présentation. Alors déjà, l'enthousiasme a démarré assez tôt parce que j'ai été assez content de devoir jouer à ce jeu, enfin de pouvoir jouer à ce jeu, parce que je suis vraiment très très fan de l'esthétique Infinity Engine, cette 2D ou 3D isométrique, ça dépend comment on voit les choses, avec les décors précalculés et puis les personnages qui se baladent à travers ces décors qui passent derrière avec des effets de transparence, c'est vraiment quelque chose qui me plaît bien. J'ai mentionné tout à l'heure que je jouais pas vraiment sur PC à l'époque. J'avais quand même eu l'occasion de jouer un tout petit peu à Baldur's Gate 2, mais c'était quelques années plus tard. Et j'en gardais un assez bon souvenir, et en tout cas l'aspect visuel m'avait beaucoup marqué. Donc j'ai été assez content de pouvoir me lancer dans cette aventure-là, surtout que la Enhanced Edition, comme un petit peu la version Pixel Remaster de Final Fantasy, permet des options graphiques actuelles, donc une résolution qui tâche
pas
trop,
ton bureau.
Qui est celle de ton bureau et qui fait pas trop mal aux yeux, donc c'était tout à fait plaisant à ce niveau-là.
Parce que le jeu à l'origine était en 4 tiers en résolution 800 sur 600.
C'est vrai, voilà, on a tendance à l'oublier, mais c'était vraiment une autre époque. Donc je suis parti avec vraiment de bons espoirs et puis une motivation vraiment entière. Alors, évidemment, j'avais déjà entendu parler de ce jeu et je savais que c'était un jeu qui est très textuel et qui ne mise pas forcément sur les combats. Et il faut bien le reconnaître, après avoir fini le jeu, l'histoire est absolument prenante. C'est vraiment une aventure qu'on a plaisir à suivre. Le mystère autour du personnage principal qu'on va peu à peu élucider sur ses origines, sur... comme tu l'as dit, la raison de son immortalité, sur les différents personnages qu'on pense avoir croisés dans une vie antérieure, on va appeler ça comme ça, dans une incarnation précédente, puisque effectivement, on incarne un personnage qui est immortel, qui ne sait pas pourquoi il est immortel. Donc on va devoir résoudre tout un tas de mystères concernant la nature du personnage, concernant sa personnalité même, puisque on est face à un jeu qui permet des choix dans les dialogues, ce qui fait qu'on peut... à peu près façonner la personnalité de notre avatar, pas tout à fait parce que évidemment il va avoir des souvenirs et puis des choses qui lui reviennent de ses précédentes personnalités, mais le personnage tel qu'on l'incarne est assez neutre à la base. On peut choisir plus ou moins son orientation, pas à la création du personnage comme ça pourrait être le cas dans un Baldur's Gate où on définit l'alignement exactement. Il y a cette notion d'alignement, mais c'est quelque chose qui va se décider en fonction des choix dans les dialogues. Certaines réponses nous font basculer plutôt d'un côté ou de l'autre.
Et justement, là, par rapport à ça, je trouve que c'est un jeu qui, contrairement à Baldur's Gate, qui nous laisse une liberté par rapport à l'alignement, c'est un jeu qui vraiment, d'un point de vue moral, pose des situations où n'importe quel positionnement de la part du joueur est compréhensible et on ne se sent pas encouragé moralement à devenir loyal bon ou chaotique bon, comme dans la plupart des CRPG. On a vraiment le champ libre parce qu'en fait, tout est tellement complexe qu'on ne sait pas par avance... quelle orientation va nous faire prendre tel ou tel choix. Alors bien sûr qu'il y a des décisions qui sont plus martiales que d'autres, etc. Mais c'est un monde qui est tellement nébuleux qu'en fait, notre baromètre et notre boussole, ou notre girouette, pour en prendre encore une autre image, morale, est complètement imperceptible. Elle est inopérante dans ce monde-là, et c'est ça que je trouve absolument génial. C'est qu'en fait, on ne sait pas quelle est l'orientation morale de nos choix, et on ne retrouve pas cette complexité-là dans beaucoup d'autres CRPG de l'époque, ou même un peu plus tard.
Complètement, oui. Et le jeu ne te dit rien, c'est-à-dire que tu peux voir ton alignement en ouvrant le menu, ce qui fait que si tu vois que ça évolue dans un sens ou l'autre, c'est que globalement tes décisions étaient dans ce sens-là, mais les choix minute après minute de chaque dialogue, tu n'en vois pas les conséquences que jusqu'à ce qu'il soit potentiellement trop tard, si tu te retrouves à devoir faire face à un combat auquel tu ne voulais pas forcément prendre part. Donc effectivement, on se prend à vraiment essayer de réfléchir à quelle est la bonne solution, puisque tu l'as dit, il n'y en a pas vraiment, ça reste une question de choix, il n'y a pas toujours une bonne et une mauvaise solution, et justement, ça permet de faire oublier le côté jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on est moins dans quelque chose de systémique où on va savoir qu'on va devoir prendre ce choix de dialogue parce qu'on veut aller dans ce chemin-là, même si à terme, on se rend compte qu'il y a clairement parfois dans des dialogues une réponse qui est plutôt sympathique, plutôt empathique et une réponse qui est plutôt globalement « je vais te casser la gueule ». Donc évidemment, il y a des choses qui sont un petit peu plus contrastées, mais en tout cas, on est loin d'être sur quelque chose de complètement binaire où on a la réponse pour être gentil, la réponse pour être cynique, la réponse pour être une brutasse. C'est vraiment beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtil que ça. Et tu parlais des thèmes que soulève le jeu, et je trouve que c'est une de ses grandes forces, c'est vraiment son ambiance, que ce soit son ambiance en termes de lieux qu'on va visiter.
Attends, c'est magnifique.
Et des thèmes qui sont omniprésents. C'est un jeu qui parle beaucoup de mort, que ce soit par rapport à son propre personnage qui justement semble être immortel, le compagnon, le premier compagnon qui voyage avec nous, donc Morté, ce crâne flottant, est évidemment lui aussi immortel, puisque voilà, ça c'est vraiment un crâne et rien d'autre. Et tous les personnages que l'on va pouvoir croiser, que ce soit les compagnons qui vont nous rejoindre ou pas, cette notion de mort est omniprésente. On va rencontrer des factions, certaines factions dont le but est de faire des contrats avec des personnes pour attendre qu'elles meurent pour pouvoir amener leur corps à la morgue et faire des profits là-dessus. Il y a vraiment tout un aspect là-dessus, ce qui fait que c'est pas forcément un jeu qui est très très joyeux hein, dans les thèmes qu'il aborde. Ça, il faut le reconnaître. Ça se manifeste aussi par son identité visuelle et sonore. Les thèmes musicaux sont rarement on est rarement sur quelque
sinistre.
Chose de guilleret, hein, ouais. c'est très très sinistre. Et peut-être une chose que je reprocherais, même si encore une fois ça fait partie de l'ambiance, c'est visuellement on est sur quelque chose d'assez terne, d'assez gris. Et là où j'ai peut-être été un tout petit peu déçu de ce que j'en attendais, même si j'avais pas énormément d'idées de ce que pouvait être dans toute sa complexité ce jeu, c'est que comme j'avais entendu parler du fait que c'est un jeu qui se déroule dans un univers un petit peu étrange, une sorte de multivers avec des plans différents,
t'attendais un peu plus de...
J'attendais peut-être petit peu plus de variété, en tout cas dans les environnements. Je dois dire qu'on traverse des univers cracra, post-apocalyptique, des bidonvilles, comme tu l'as dit, et même les autres lieux que la première ville du jeu qui... Les autres plans qu'on visite sont quand même tous un petit peu dans cette identité visuelle ocre, grise. Donc c'est peut-être un petit peu dommage, je trouve, de ne pas avoir essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus foufou avec cette histoire de multivers. Il y a 2-3 passages vraiment marquants, uniques, mais ils arrivent vers la fin de l'aventure et on n'y reste que très très peu.
Et c'est vrai que ça, à l'époque, ça avait déjà été une de mes déceptions relatives, mais c'est que ça, il y a un potentiel d'innovation visuelle et d'originalité qui n'est pas forcément totalement exploité. Alors je sais que les développeurs à l'époque disaient que c'était un jeu qui demandait un budget énorme pour coller à l'idée qu'ils en avaient. Peut-être qu'ils ont dû revoir leurs ambitions à la baisse, j'en sais rien, mais c'est vrai que sur ce plan-là, le jeu aurait pu être un peu plus inventif, un peu plus barré encore dans ce qu'il permet en fait de par son univers. Mais tu parlais de la présence de la mort. Moi là, en relançant le jeu, je prenais quelques notes au fil du premier dialogue. Un des premiers dialogues vraiment qu'on a dans le jeu, c'est avec le scribe de la morgue dans lequel on se réveille, qui s'appelle Dal, et qui nous donne les premières bribes d'informations sur notre identité. On apprend qu'on est revenu, qu'on doit quitter l'ombre de la vie, de cette vie-là. Il nous dit que l'ombre de la vie, c'est une forme d'attente de la vraie mort. Donc on ne sait pas si on est dans un entre-deux, une forme de purgatoire, ou si on est mort ou si on est vivant. Il nous dit que notre existence actuelle n'est pas réelle, mais est simplement l'ombre de ce qu'on était autrefois, et que cette vie est une forme de cage en attendant le vrai état de mort qui est présenté comme un état de pureté. Donc le ton est donné d'emblée et c'est tout de suite vertigineux. Simplement en relisant ces lignes de dialogue, je me disais, ah, putain, ça brasse quand même du dense, du fascinant et puis quelque chose d'inquiétant, mais à la fois d'encourageant dans la quête qu'on va entreprendre. Enfin, c'est euphorisant pour moi dès les premières lignes de dialogue. Mais je te laisse continuer.
Et c'est sûr que là, on n'est pas sur le même registre que Final Fantasy.
Ah
pour
non,
le coup.
C'est pas
complètement,
les...
évidemment,
c'est pas les guerriers de lumière. Là.
Ah, pas tout à fait, non. Et je dois dire que le premier tiers de jeu, j'étais effectivement complètement fasciné par l'aventure, par les zones qu'on traverse, donc qui sont plusieurs quartiers d'une même ville, hein, qui je pense s'appelle La Ruche en français, donc cette ville découpée en 4 quartiers, tous globalement du style bidonville, mais avec différents points d'intérêt, que ce soit une taverne, un marché, ce genre de choses. Et vraiment, on a le fil conducteur de la quête principale, où on apprend bribe d'information après bribe d'information. On peut d'ailleurs questionner les PNJ, que ce soit un PNJ important ou le moindre passant, on peut questionner sur les grandes lignes de notre personnage, c'est-à-dire est-ce que vous savez qui est Farod, justement, est-ce que vous n'avez pas vu un journal qui traîne, on peut vraiment demander
ce
à n'importe
quel PNJ.
Ce
n'est plus forcément possible dans n'importe quel RPG aujourd'hui.
Non, parce que, comme tu l'as dit, ça implique des lignes de dialogue énormes, même si on va s'en rendre compte assez vite, le tout venant, comme tu le dis, les PNJ vont la plupart du temps répondre par le négatif quand on va les questionner sur les choses importantes. La trame scénaristique principale ne va avancer qu'avec certains personnages clés, hein, évidemment. On reste dans un jeu vidéo, dans quelque chose qui va avancer par palier.
Qui est scripté, quoi.
Qui est scripté, effectivement. Et vraiment, cette première partie dans la ville est vraiment, pour moi, très très bien réussie et très bien équilibrée, très bien rythmée. On a des quêtes annexes, puisque voilà, dans n'importe quel jeu de ce genre, on va, en discutant avec les PNJ, avoir des petites quêtes, résoudre le souci de tel ou tel personnage. C'est vraiment pas nécessairement liées à notre histoire principale, mais elles sont toujours très bien écrites, elles prennent jamais très très long, et ça c'est quelque chose que j'ai apprécié par rapport à des jeux un peu plus récents que j'ai pu faire, notamment le premier Divinity Original Sin, qui te bombarde de quêtes annexes dont tu te rends compte que tu ne peux pas voir la fin avant bien plus tard dans le jeu parce qu'elles demandent d'aller dans des zones bien plus loin. Là, on est sur des quêtes annexes qui peuvent se résoudre immédiatement. Tu vas dans le quartier d'à côté, tu glanes des informations. Il ne faut pas penser que c'est non plus des quêtes FedEx ou des quêtes trop automatiques. C'est-à-dire qu'il va quand même falloir parfois bien lire les dialogues de
certains
personnages.
Réfléchir à ce que tu veux articuler comme question-réponse.
Exactement. Réfléchir à quelle ligne de dialogue tu veux poursuivre. Parfois même regarder, comme des jeux un petit peu plus récents, je pense aux Souls notamment, il fallait bien qu'on prononce au moins ça dans un premier épisode de podcast, sinon on était foutus.
T'inquiète pas, j'allais y venir en parlant de Planescape Torment.
On est obligé parfois de lire les descriptions des objets, imaginez en 2023 lire des descriptions d'objets, c'est impensable. On est parfois voilà, obligé de regarder, de lire des petits documents, de trouver des indices ici et là pour trouver
d'enquêter, quoi.
Où pourrait se trouver tel objet, qui pourrait avoir telle clé, qui pourrait posséder telle information. Et vraiment, ce premier tiers du jeu dans la ville, dans la ruche, se passe vraiment de façon très très bien rythmée et on prend plaisir à enchaîner les quartiers et à pousser, à creuser le mystère.
Mais ça s'est gâté par la suite, si je déduis.
Ça s'est un petit peu gâté par la suite et alors, j'ai pas parlé des compagnons. On recrute des compagnons finalement, justement à partir, je dirais, de ce premier tiers, à la fin de la ville. On peut recruter un premier personnage assez rapidement. Les autres viennent quand même passer ce premier tiers.
Et on ne pourra pas forcément tous les débloquer. Hein.
Non, alors c'est vrai qu'on a une limite
on
a une limite de 6 personnages dans l'équipe, on peut en laisser certains de côté.
Et la limite n'est même pas forcément que quantitative, mais elle est parfois aussi qualitative, c'est-à-dire que voilà, certains choix que tu auras faits vont t'empêcher
de recruter tel ou tel personnage.
Exactement.
Ouais. On repère à peu près, quand on discute avec des personnages, on voit qu'il y a des personnages plus importants que d'autres. Beaucoup ont des noms, donc on peut se demander si tel ou tel peut rejoindre effectivement.
Oui.
Généralement, si on entend une ou deux lignes de doublage audio, c'est que c'est un personnage qu'on peut recruter, à quelques exceptions près. Donc, effectivement, passé le premier tiers, je me suis heurté à quelques écueils de Planescape Torment, et c'est principalement autour du système de combat.
Ouais, c'est vraiment l'immense point faible du jeu.
C'est-à-dire que donc, j'étais prévenu qu'on était sur un jeu très très narratif qui laissait la part belle au dialogue plutôt qu'au combat, et j'étais plutôt content de me lancer dans quelque chose comme ça parce que, ayant joué justement aux deux premiers Baldur's Gate à différents moments de ma vie, je me suis rendu compte que le système de combat qui est basé, si je dis pas de bêtises, sur les règles de Advanced Dungeons and Dragons a assez mal vieilli. C'est des règles qui sont très punitives, qui sont très obscures aussi. Et donc, ce n'est pas forcément le point fort de ce genre de jeu. C'est pour les personnes qui ne voient pas exactement comment ça se passe, on est sur un système de pause active où on peut mettre le jeu sur pause, donner des ordres à chacun de ses personnages, de placement, d'attaque, et après regarder en temps réel comment le combat se déroule.
Et normalement, tout se passe à coup d'action qui est conduite par un lancer de dés de 20.
Invisible
pour le joueur sur ordinateur.
Oui. Effectivement. Et il faut bien reconnaître que c'est le gros point faible du jeu. Les combats ne sont pas très très intéressants stratégiquement. Ils sont très difficile la plupart du temps. J'ai joué au jeu dans une des difficultés les plus basses et j'ai quand même été confronté parfois à des murs de difficultés au niveau des combats. Heureusement, on peut, dans beaucoup de cas, fuir. C'est une possibilité que j'avais finalement pas prise en compte au début, j'avais pas forcément remarqué que c'était possible, mais c'est souvent même encouragé si on développe les points de compétence de son personnage plutôt vers quelque chose orienté charisme, intelligence, sagesse. Ce que j'avais fait, puisque justement je me disais que dans un jeu qui privilégie
les j'allais te demander justement, parce que ta force, dextérité, constitution, intelligence, charisme, ouais, sagesse, toi t'es plutôt allé vers
ces trois. Je suis plutôt allé dans la partie justement psychologique. Dialogue pour essayer. Parce que je sais un petit peu comment marche ce genre de jeu. Je sais qu'on a accès à plus de réponses possibles, parfois plus intéressantes, avec des conséquences meilleures en un sens, si on a des points, des statistiques élevées dans plutôt les caractéristiques type charisme, intelligence. Donc je m'étais plutôt orienté comme ça. Et tout en sachant que je risquais d'avoir un petit peu de mal au niveau des combats. Et effectivement, les combats étaient assez compliqués. Alors, j'ai fini par m'en sortir, hein. J'ai vu le bout du jeu, même si j'ai essayé, parfois en relançant une sauvegarde, de choisir le choix de prendre le choix de dialogue qui ne donnait pas forcément un lieu à un combat, mais qui essayait plutôt d'avoir une résolution, pas forcément à l'amiable, mais en tout cas sans devoir passer par la baston. Et voilà, c'est quand même dommage. Alors, encore une fois, hein, je pense qu'il y avait les limitations de l'époque, tu l'as dit, de budget. Ils se sont clairement concentrés sur la partie narrative, peut-être au détriment du système de combat. Et c'est d'autant plus dommage que, justement, passé ce premier tiers, le rythme de l'aventure change un petit peu. On a vraiment des passages avec beaucoup de quêtes qui succèdent, parfois des quêtes pas forcément toujours très intéressantes, mais qui sont nécessaires pour faire progresser la trame principale. Donc on est parfois dans des longs tunnels de quêtes annexes, d'aller-retour, entre parfois deux bâtiments côte à côte. On a moins de découvertes de nouveaux quartiers, on revient un petit peu dans les environnements précédents, et globalement il y a un petit peu moins d'originalité et je trouve de fantaisie dans ce que le jeu nous propose au fur et à mesure. Et s'ensuit après un autre long couloir, mais cette fois plutôt dans un donjon, donc avec beaucoup de combats. Je pense notamment à la prison qui arrive vers peut-être les trois quarts du jeu, qui est vraiment un endroit abominable, truffé de combats contre des ennemis très très forts. Il faut savoir, parce que tout le monde ne le sait pas forcément, que on ne peut pas vraiment se soigner quand on veut. C'est-à-dire que si on veut se soigner, il faut se reposer, mais on ne peut pas se reposer en plein milieu d'un donjon. Il faut trouver un endroit comme une maison de quelqu'un qu'on connaît, ou une auberge, ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que quand on est dans un donjon, eh ben on fait avec les moyens du bord, et c'est parfois très compliqué de s'en sortir. C'est vraiment une progression qui devient beaucoup plus lente, et voilà, un petit peu, que j'ai ressenti de façon un petit peu plus pénible, malheureusement.
Et il y a quelque chose de presque paradoxal à ça, c'est-à-dire que c'est un jeu qui nous fait comprendre que la mort est un obstacle presque anodin pour notre personnage, mais en même temps, c'est vrai que la rugosité des combats, le fait qu'ils ne soient pas spécialement intéressants, c'est un système qui est très simpliste, même si les personnages qu'on va débloquer ont d'autres capacités, il y a plutôt des lanceurs de sorts, etc. Étant donné que la mort n'est pas censée être un obstacle vraiment dans cet univers-là, en tout cas pour notre personnage, il y a presque quelque chose de paradoxal. Maintenant, dans la densité de ce que le jeu raconte, toi, c'est quelque chose qui t'a paru abordable. Est-ce que ça t'a captivé jusqu'au bout, au sens où est-ce que tu avais toujours cette envie de déceler, de décoder, de comprendre l'histoire de ce personnage? Est-ce qu'il te poursuit encore? Parce que moi, c'est un personnage qui m'a vraiment poursuivi de nombreuses années après l'avoir terminé.
Alors oui, heureusement, la quête, découvrir le mystère de ce qui entoure les origines de notre personnage, ça reste un fil conducteur qui, heureusement, m'a tenu en haleine jusqu'au bout, et c'est aidé par les compagnons qu'on recrute, avec lesquels on peut discuter via un menu qui est pas forcément hyper visible, hein, que j'ai tout découvert pas tardivement non plus, mais je me suis rendu compte qu'effectivement on peut à tout moment discuter avec n'importe lequel de ses compagnons via une petite boîte de dialogue, un petit menu, et ça permet d'en apprendre énormément sur l'histoire, parce que c'est pas complètement un hasard, à peu près tous les personnages que l'on va pouvoir recruter en tant que compagnon ont un passif avec notre personnage, l'ont croisé lors d'une incarnation précédente qui n'avait pas forcément les mêmes traits de caractère que le personnage qu'on incarne, qu'on peut à peu près façonner comme on le souhaite. Donc c'est très très intéressant de découvrir des dialogues cachés avec Morte et le Crâne ou avec d'autres des compagnons et de découvrir un petit peu des bribes de mémoire de notre avatar. Ça c'est vraiment très très, c'est vraiment passionnant. Et ça m'a tenu en haleine jusqu'au final. Alors, avec tout de même une petite réserve, j'ai gardé ma sauvegarde de juste avant le boss final. J'ai toujours pas relancé le jeu. Il faudra que je le fasse parce que, évidemment, j'imagine qu'il y a plusieurs fins différentes selon les choix qu'on peut faire. Et j'espère que, avec l'état dans lequel j'ai laissé ma partie, je peux avoir accès à différentes fins. Parce que je dois avouer que j'ai quand même été un petit peu déçu par le final, tout bêtement, par la conclusion de l'histoire. Je vais pas forcément la révéler parce que, de toute façon, ça dirait pas grand-chose aux gens si on n'a pas fait le jeu. Mais j'ai été peut-être un petit peu déçu par le dénouement.
En fait, je crois qu'il y a plusieurs... je crois que la fin est unique, si je dis pas de bêtises, mais tu peux y arriver dans différents états, mais qui précèdent la dernière cinématique. Mais je crois bien que la cinématique finale est la même pour tout le monde. Simplement, ton expérience de joueur t'y aura mené dans un état complètement différent. Mais ça, c'est simplement toi qui le projettes sur la signification de cette dernière cinématique. Si, à vérifier, mais je crois
à vérifier. Alors, il me semblait avoir lu qu'il y avait peut-être différents finishes, mais ouais, peut-être que c'est ça dont tu parles, le fait d'y arriver différemment. Toujours est-il que j'ai trouvé que ça tombait un petit peu à plat, c'est un petit peu dommage.
Moi, c'est ça qui m'avait fasciné. On en parlera
mais
après.
Mais oui,
effectivement,
il y a quand même une portée assez significative sur le destin de notre personnage.
Ça fait 25 ans, hein, mais il y a un mouvement de tête du personnage à la fin, quand il fait quelque chose, c'est son dernier mouvement avant le générique de fin, mais j'avais trouvé ça obsédant, vraiment fascinant, parce qu'en fait, c'est toi qui projettes ce que tu veux comme signification sur ce mouvement-là, avec une forme d'acquiescement. Mais non, c'est magnifique, magnifique.
Alors, je suis en tout cas content de ne pas avoir joué au jeu à l'époque de sa sortie, en tout cas à l'âge que j'avais, parce que je pense que je serais passé à côté de pas mal de choses. Mmh. Alors, le jeu était traduit en français lors de sa sortie. Ouais. J'ai fait le jeu en anglais et puis j'ai l'impression d'avoir pas perdu grand-chose. Donc voilà, j'ai passé un bon moment avec les nombreux dialogues, la lecture des nombreux dialogues. Hein. C'est un jeu qui, en termes de gameplay, reste assez... simple dans sa mécanique, ouais, en tout cas dans les actions qu'il demande aux joueurs. Hein, on est beaucoup en train de cliquer, de sélectionner une ligne de dialogue, d'ordonner à nos personnages d'aller là où on veut qu'ils aillent. Mais par contre, c'était effectivement un plaisir de lire tout ça, en particulier, comme je le disais, les dialogues avec les compagnons qui apportent vraiment quelque chose. Tous les compagnons ne se valent pas en termes de qualité d'écriture et d'intérêt, j'ai l'impression. Alors, en tout cas, ceux que j'ai eus, j'avais, à part le crâne, j'avais deux personnages masculins, deux personnages féminins. Les deux personnages féminins étaient clairement en dessous. En termes d'intérêt,
la prostituée,
effectivement.
La succube.
Elles ont des origines intéressantes, mais j'ai l'impression qu'elles apportent moins en termes de complexité. Et comme en plus, il y a une espèce de petit ressort romantique, on a souvent des choix de dialogue par rapport à ces personnages-là qui sont un petit peu orientés, si on veut. Je les ai trouvés un petit peu moins intéressants que Morte ou Ignus, l'homme flamboyant, pour ne citer que lui.
T'avais aussi l'espèce de guerrier samouraï.
Exactement, oui, qui s'appelle Dakkan, je crois que c'est ça. Ouais.
Mais la qualité de la traduction est bonne, en tout cas au niveau du texte. Par contre, les doublages, parce qu'il y a quand même quelques lignes de dialogue qui sont doublées en français, elles sont abominables dans la Enhanced Edition. C'est les doublages d'origine aussi. Et là, en les réécoutant, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ringard, hein. Tu sens vraiment les mecs qui ont doublé ça dans leur garage. C'est assez infâme. En anglais, la qualité des voix est quand même nettement supérieure.
Ouais, alors la voix du personnage principal que vous avez pu entendre dans la petite transition entre les deux jeux tout à l'heure, effectivement, est assez mémorable. Et même si on réentend souvent les quelques lignes en boucle, puisque évidemment, tous les dialogues ne sont pas doublés, hein, on peut imaginer que ce serait un budget et des efforts colossaux, mais on a quelques lignes de dialogue comme ça et quelques expressions quand on va ouvrir un menu ou quand on va effectuer une action, on a quelques lignes de dialogue et effectivement ça ajoute un petit peu, ça donne de la personnalité en plus, ça juste, ajoute vraiment à l'ambiance.
C'est juste dommage qu'on n'ait pas la possibilité d'y jouer avec les voix en anglais et les textes en français. Et pour les personnes qui sont peut-être moins à l'aise avec un anglais littéraire...
Alors c'est vrai que c'est un anglais assez soutenu et puis... comme l'activité principale qu'on va faire pendant le jeu, c'est de lire. Hein, c'est vraiment presque tout ce qu'on fait, si on, en tout cas si on essaye comme moi d'esquiver la plupart des combats, on se retrouve vraiment presque devant un livre dont vous êtes le héros finalement.
Ouais,
mais alors, voilà, on en croise assez rarement à ce niveau-là d'écriture, à ce niveau-là d'ambiance, même si, encore une fois, je veux pas forcément finir sur du négatif, mais c'est un petit peu dommage que le jeu n'ait pas essayé d'en faire plus en termes de variété, je trouve, de variété d'environnement, c'est surtout ça, c'est surtout les variétés de situation et d'environnement, où là, on est vraiment sur quelque chose d'assez constant tout au long de l'aventure. Mais pour ne justement pas finir sur une note négative de ce qui reste un jeu assez sensationnel, forcément, je n'aurais pas le même lien émotionnel avec le jeu que toi qui l'as découvert à un âge où on est forcément un peu plus
poreux dans
la
l'affluence,
effectivement. Et puis, on a tendance à garder des souvenirs plus forts de jeux qu'on a fait dans notre enfance. Hein, je pense que c'est le cas de tout le monde. Donc, j'aurais peut-être pas cet attachement que tu peux avoir avec le jeu, mais j'en garde quand même un très bon souvenir et je suis absolument ravi d'avoir eu la chance de pouvoir y jouer.
Et on peut d'ailleurs noter qu'il y a une suite spirituelle au jeu qui est sorti en 2017, ce qui avait été longtemps attendu, qui s'appelle Torment Tides of Numenera, que je n'ai pas encore faite. Donc je ne peux pas me prononcer dessus, il paraît qu'elle est un peu décevante, mais on verra peut-être qu'elle résout en tout cas ce manque de fantaisie ou d'imaginaire débordant que tu regrettes par rapport à ce jeu. Moi c'est vraiment, peut-être pour terminer sur Planescape Torment, c'est un jeu que là, en revoyant avec 25 ans d'écart, me fascine vraiment. J'ai envie de le refaire en entier, notamment pour voir à quel point les auteurs ont été rigoureux dans l'écriture et dans le maniement de certains concepts philosophiques, parce qu'il y a cette idée quand même qui est très proche de la phénoménologie ou de la philosophie de Schopenhauer, qui dit que le monde n'existe que comme une représentation. Et c'est le souvenir que je garde du jeu et que j'avais trouvé fascinante. C'est cette idée qui dit qu'en fait n'existe que ce que tu penses et que ce que tu fais, et qu'en fait c'est tes états mentaux qui vont dicter la réalité de ce qui t'entoure. Et il me semble vraiment de souvenir, de mémoire, que le jeu atteint certains pics comme ça qui frisent le vertige métaphysique dans la remise en question de tout ce qui t'entoure, de la réalité.
Clairement,
ouais. Et il y a vraiment ça que j'aimerais maintenant, aujourd'hui, avec plus de culture, avec aussi une meilleure connaissance de la philosophie, j'aimerais adopter ce regard actuel sur le jeu, voir s'il est phénoméniste, phénoménologiste. Il y a plein de choses qui me donnent envie d'y retourner, en plus de la musique que j'ai réentendue dans les menus que j'adore, qui me fascine. Mais surtout, en y rejouant, d'emblée, je me suis dit, mais en fait, c'est logique. Ce jeu, on y joue un avatar anonyme, une coquille vide, qui va devoir remonter son origine dans un univers cryptique. Ses origines, ouais. Et c'est pas pour rien que c'est un jeu qui m'avait fasciné et que j'ai été fasciné des années et des années plus tard par les jeux de From Software, les Souls, parce qu'il y a la même capacité à t'imprégner, à t'impliquer en fait, émotionnellement, avec le personnage, même si dans les Souls on va beaucoup moins résoudre une histoire personnelle, il y a quand même ce pari qui est fait et qui pour moi est largement gagnant, de t'impliquer mais par du vide, c'est-à-dire qu'on ne te bassine pas avec une histoire qui te précède en tant que joueur, simplement c'est à toi de la raconter, c'est à toi de la découvrir. Et c'est une très belle démonstration que proposent les jeux de Miyazaki ou ici Planescape Torment, du joueur qui lui-même peut investir et donc s'investir dans son personnage, dans cette histoire, si on lui laisse un peu la place. Et il y a une proposition qui est assez rare en fait, hein, dans l'histoire du jeu vidéo, d'un jeu qui à ce point-là ne t'explique pas mais te donne un champ libre pour la projection et pour l'identification. Et puis le jeu m'a aussi énormément fait penser, a posteriori, là on commence, on est amnésique, on a perdu notre journal, forcément on pense aussi à Disco Elysium, qui est un des RPG qui a le plus fait parler de lui ces dernières années, les gens criaient au chef-d'œuvre de par les qualités de son écriture. Alors c'est vrai que le jeu est très bon, le jeu est très bien écrit, mais je pense qu'il doit beaucoup à Planescape Torment.
Complètement, je pense que l'inspiration est assumée, hein. Disco Elysium est un jeu qui est intégralement sans combat, hein.
Ouais.
Là pour le coup, ils ont complètement fait table rase de tout ce qui est combat, de tout ce qui est statistique. Tout passe par le dialogue.
Ouais, et par les états mentaux.
Exactement. Ouais.
Et on a vraiment le même point de départ. Hein. On joue un flic qui se réveille d'une cuite, il ne sait plus ce qu'il a fait la veille, il a perdu son revolver, c'est pas son journal, mais il a perdu quelque chose, il va devoir le retrouver. Et au final, on va aussi découvrir ces différentes psychologies qui coexistent, comme un peu les différentes histoires, incarnations du sans-nom coexistent dans Planescape Torment. Donc si vous avez aimé Disco Elysium, si vous aimez ce genre de jeu-là, si vous aimez les jeux bien écrits, aussi beaucoup de gens crient au chef-d'œuvre devant l'écriture de Witcher 3, jouez à Planescape Torment parce que vous avez vraiment là, pour moi, des moments fondateurs du jeu vidéo mature dans son écriture, complexe, exigeant intellectuellement, qui fait date et puis qui, dans sa narration, n'a pas beaucoup vieilli aujourd'hui encore. Donc, bref, je suis content que tu aies rattrapé ce jeu.
Merci pour cette envolée lyrique qui sera, je pense, notre point final pour cette partie principale de l'émission.
Émission qui dure déjà depuis bien trop longtemps parce qu'on visait une heure, mais bon, on va dire que c'est l'exception du premier épisode. On a dû expliquer le concept, etc. Voilà. Mais rassurez-vous, les prochains épisodes dureront 60 minutes, on vous le promet.
Quelle pression.
Mais on va donc en rester là pour les deux jeux attribués pour aujourd'hui. Donc Final Fantasy d'un côté, Planescape Torment de l'autre. Et avant de vous quitter, on vous propose encore une petite conclusion où on vous fera part de nos expériences actuelles de joueurs, ce à quoi on joue maintenant, aujourd'hui, sans aucune pression, sans aucune obligation, mais de notre plein gré. Voilà, alors pour terminer, Thomas, tu joues à quoi actuellement ? Est-ce que tu as un conseil à donner à nos auditeurs ? Qu'est-ce qui occupe tes journées quand tu en as de libre, au-delà du prochain jeu que je t'ai déjà attribué et sur lequel tu planches déjà ?
C'est tout à fait exact, ouais. Alors quand j'ai un petit peu de temps de libre, qui est bien trop rare, hein, comme tu l'as souligné, je donne une deuxième chance à Pokémon Violet sur Switch, puisque je l'ai acheté à sa sortie évidemment comme un bon Yankli, puisque je l'ai mentionné au tout début.
Quelle idée déjà de lui donner une première chance.
Alors,
idée en plus de lui donner une deuxième chance.
Tu sais, le passif que j'ai avec la licence, hein, je l'ai évoqué dans l'introduction, fait que je peux décemment pas me regarder dans la glace si je n'achète pas Day One, la nouvelle version de Pokémon. Mais au moins, j'ai pas acheté les deux, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes que je connais. Mais voilà.
On
donc
trouve toujours plus pigeon que soi. Hein,
ça, surtout quand il s'agit de Nintendo, de toute façon, les dérives sont atroces. Mais j'ai donc... j'ai commencé à jouer à sa sortie. Le jeu m'est un petit peu tombé des mains, et puis entre-temps, j'ai joué à Planescape Torment, donc on pouvait pas tout faire. Hein.
Le saut qualitatif est énorme.
Alors, c'est pas la même chose. Et bizarrement, par contre, le saut des graphismes est à peu près le même, puisque...
mais ça bug. Il paraît que ça bug énormément.
Ça bug énormément. Alors, même sans épiloguer là-dessus, parce que ça a été dit à tort et à travers par à peu près tout le monde, le jeu est techniquement à la ramasse et c'est... une honte, je trouve, pour un studio de cette trempe, même si ce n'est pas un énorme studio en termes d'effectifs, mais chapeauté par une entreprise qui génère des sommes d'argent colossales. Hein. Je crois que Pokémon est la licence multimédia la plus lucrative du monde actuellement. Donc, tout ça pour dire que l'aspect technique est complètement abominable. Mais surtout, ce jeu qui est le premier vrai monde ouvert de la série.
Après Arceus.
Après donc Arceus, qui est un petit peu cloisonné à la Monster Hunter des premiers jours. Mais la promesse de cet open world que beaucoup de gens a l'air d'encenser, moi, ne me convainc pas tant que ça. C'est-à-dire que je trouve qu'on... C'est pas forcément qu'on y perde, mais on y gagne en tout cas pas grand-chose, à mon sens. On se contente de traverser des zones assez vides, pas très jolies, à la recherche du prochain objectif. Alors,
Est-ce que ces zones vides, parce que moi c'est ça qui m'intéresserait potentiellement, est-ce que ces zones vides sont au moins l'occasion d'avoir un peu le sentiment du chasseur qui fait son safari et puis qui traque des espèces de Pokémon qu'on va voir apparaître ici ou là ?
Ça, c'est présent parce que la densité de bestioles sur les différents environnements est quand même assez fournie. Hein. On croise tout le temps, tous les 3 mètres, il y a des petites bestioles qui souvent, en plus, sont un petit groupe d'espèces. Donc, on a un petit peu ce côté écosystème plus ou moins crédible. Donc, pour qui aime bien capturer la partie capture de monstres, là effectivement on est servi parce qu'il y en a vraiment une quantité assez folle. Mais par contre, en termes de rythme de jeu, alors effectivement on est plus cantonné à suivre des routes et croiser le regard des dresseurs et aller jusqu'à la prochaine ville et jusqu'à la prochaine arène. Mais finalement la structure du jeu change pas tant que ça, parce qu'on se retrouve avec plusieurs arcs scénaristiques qu'on peut suivre parallèlement les uns aux autres. Mais le chemin ne change pas vraiment. On se dirige vers le nouvel objectif, que ce soit une base ennemie, une ville ou quelque chose comme ça. Et finalement, on traverse des grands espaces vides. Si on a fini de capturer un petit peu les monstres de la région, on se contente de traverser. Moi, en tout cas, c'est pas quelque chose qui me parle plus que ça. Alors, je lui donne une seconde chance et je commence à rentrer un petit peu dans le rythme. Et je pense que je vais voir le bout de l'aventure tout de même, mais... J'ai du mal à voir l'engouement que suscite le jeu, parce que au-delà de l'aspect technique, il y a beaucoup de gens qui parlent du jeu comme étant une des meilleures générations. Peut-être que ça va venir, peut-être que je vais débloquer de nouveaux systèmes et que le jeu prend un petit peu son temps à démarrer, mais pour l'instant, je dois avouer que c'est assez mou.
Moi, quand j'ai vu qu'ils n'avaient même pas gardé le système de capture de Arceus, qui ne lance pas de combat, mais où tu peux simplement lancer tes Pokéballs sur les Pokémon en te retournant, en allant directement faire autre chose, j'ai dit « va chier, je ne mange pas de ce pain-là ». Donc j'ai fait l'impasse sur ce Pokémon et je crois que je ne jouerai plus jamais de ma vie à un Pokémon.
Bon, attends un petit peu avant de le dire trop vite, parce que cette émission regorge de surprises.
Veto.
Et toi, à quoi est-ce que tu passes tes heures de jeux vidéo quand ce n'est pas pour jouer à des vieux RPG ou autres ?
Écoute, ça fait quelques temps que je suis sur Xenoblade Chronicles, le premier du nom, que je n'avais pas fait lors de sa sortie sur Wii ou sur 3DS. Et je l'ai acheté dans sa définitive ou je ne sais plus...
Definitive Edition.
Sur Nintendo Switch. Alors je sais que le jeu est très long, je suis environ à une vingtaine d'heures et pour l'instant ça me plaît beaucoup. L'aspect shonen tant redouté ne me rebute pas, parce que j'avais un peu peur d'une narration vraiment trop enfantine, trop adolescente, avec des arcs narratifs typiques du shonen. C'est le cas, mais c'est pas étouffant pour l'instant. Alors, des proches me disent que le jeu a une évolution un peu catastrophique et qu'il se termine dans un ton insupportable. Je n'en suis pas là. Et j'aime beaucoup le système de combat, qui est en fait un très bon exemple d'itération solo des mécaniques des MMO.
Dans RPG. MMO, ouais, complètement.
Et en fait, c'est vraiment, pour donner l'explication la plus simple, c'est un MMO solo dans lequel on va pouvoir manier plusieurs personnages, mais le système de combat avec des cooldowns, des compétences qui nécessitent qu'on soit parfois derrière sur le flanc d'un ennemi, rend n'importe quel combat stimulant. Je trouve les musiques vraiment excellentes. J'avais joué au Xenoblade X, où les musiques un peu jazzy m'avaient saoulé très rapidement. Ici, c'est pas du tout le cas. On est vers quelque chose de beaucoup plus classique, beaucoup plus harmonique. Et je trouve pas le terme, mais c'est pas du jazz en tout cas. Donc, les musiques sont vraiment excellentes. Graphiquement, je trouve que le jeu s'en sort très bien. Pour dire en plus qu'à la base, même s'il y a eu un travail derrière pour la ressortie sur Switch, pour dire que c'était sorti sur Wii, je trouve que le jeu est très très ambitieux.
C'est assez impressionnant pour de là, oui. Hein, quand on regarde le jeu d'origine tourné, ça reste une prouesse technique.
Alors ça, j'imagine. Ouais. Déjà, l'ampleur du jeu, l'ampleur de la map. Et non, c'est un jeu auquel je prends beaucoup de plaisir à jouer pour l'instant, en plus du jeu que tu m'as déjà recommandé pour le prochain épisode. Et comme vous serez des millions de personnes à écouter cet épisode, forcément on est tenu de publier le suivant. Donc voilà, Xenoblade Chronicles, que j'aime bien, et je serais presque même motivé, si ça continue sur cette lancée, à enchaîner avec le 2. Pourquoi pas le X à nouveau.
Puis le 3.
Et puis le 3, exactement. Toi, t'as pas fait, hein, je crois, ou t'avais commencé...
Commencé un petit peu le 1, et comme je commence plein de jeux tout le temps, il fait partie de ces nombreux jeux que j'ai pour l'instant laissé dans une pile en pause. Mais effectivement, ouais. Le peu que j'avais joué m'emballait assez, donc je pense que je continuerai quand l'occasion se présentera.
Bon, écoutez, je crois que vous l'avez compris, Final Fantasy, c'est un très bon jeu. Planescape Torment, c'est un excellent jeu. Xenoblade Chronicles, c'est un bon jeu. Pokémon Violet, je ne sais pas quoi,
c'est un
mauvais jeu. C'est un jeu, voilà, c'est ça. On vous remercie de nous avoir écoutés. Vous pouvez certainement nous retrouver sur différents réseaux sociaux. Je crois qu'un compte Twitter a été créé. Serons-nous sur d'autres réseaux ? Je n'en sais rien.
Le temps le dira, la popularité le dira aussi.
Exactement. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode qui, oui, on le sait, est trop long, donc ça sert à rien de le dire, mais dites-nous si ça vous a plu de nous entendre parler sur ces jeux qu'on a découverts, qu'on s'est imposés respectivement. Est-ce que ça vous a donné envie de les faire? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous, pas d'accord? Insultez-nous, bref, créez du buzz, du good buzz, du bad buzz, j'en sais rien.
Tu sais vraiment bien vendre le
ça,
truc.
Hein,
il faut
j'ai jamais été autant marketeur de ma vie. Non, mais en tout cas, nous, ça nous a fait plaisir. Que ça vous plaise ou non, de toute façon, on reviendra.
Ça, c'est sûr. Ouais.
Et,
dans un mois, si tout va bien.
Si tout va bien. Merci pour l'écoute. Merci, Thomas, pour ce très bon jeu que tu m'as soumis.
Merci, Thomas, pour le jeu et pour ce dialogue tout à fait enrichissant.
Et à bientôt
pour le prochain épisode.
Ciao.